Bienvenue à tous dans ce numéro 14, ce 14e numéro de Pourquoi Buffy c'est génial.
Le deuxième en live. En plus.
C'est le deuxième en live.
On est content.
C'est compliqué le live, j'ai déjà dit la dernière fois.
Hein, le live. Franchement, qu'on a dit ça la dernière fois.
Mais si, il faut le faire à chaque fois parce que c'est cool, mais putain, on en chie. Alors, tout de suite, je m'occupe de la technique en même temps, c'est très bien, c'est parfait. Donc oui, nous enregistrons donc ce 14e numéro. Je me présente, hein, présentons-nous.
Oui,
je me présente. Je suis Sartman, j'ai 32 ans et c'est mon anniversaire.
Ouais, bon anniversaire, Sartman!
Merci. Je suis accompagné de Riley qui a 36 ans et c'est son anniversaire.
J'ai vie. Bon.
Bah t'as oui, t'es un peu
j'ai
plus vieux.
J'ai vie d'un coup là.
T'as pris un peu cher.
Et pour nous accompagner, nous sommes aussi accompagnés, hein, ça tombe bien, de Clément qui est un démon âgé de 247 ans et vous savez quoi? C'est son anniversaire.
Bon anniversaire, Clément, bravo.
Bah merci. Non,
tout ça, c'était en fait une gonzane pour dire que oui, aujourd'hui, c'est l'anniversaire du podcast.
Et voilà.
Bon anniversaire.
On est content.
C'est l'anniversaire de Pourquoi Buffy c'est génial. On va donc justement souffler la bougie, hein. Ça se passe
allume,
comme ça.
Allume vraiment donc une bougie.
Attention, on va commenter parce que là,
il se met.
Alors, bah, soufflez avec nous si vous voulez.
On voit la bougie ou pas?
Non, mais on est décalé sur le live, on ne se rend pas compte.
Si. Enfin, on la voit sur le. Ouais, t'inquiète, on la voit.
Donc, vous êtes prêts à souffler la bougie?
Oui. Ah, tu vas le faire.
1, 2, 1.
Ah ouais.
Ouais, anniversaire. Pourquoi Buffy, c'est génial.
Ah, ça, c'est une bougie qui se rallume.
Une bougie qui s'éteint pas.
C'est génial. Ouais, c'est forcément, regarde Buffy.
C'est chiant.
Ça va exploser le. Bah,
donc, c'était un instant en direct à couper le souffle. Hein. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire du podcast qu'on voit des choses aussi intenses.
Ah, ça y est, bah.
Bon, attaquons quand même le vif du sujet. Hein. Qu'est-ce que.
Mais t'as pas expliqué le principe du podcast.
J'ai pas expliqué, mais faut que je fasse ça.
Ça va pas trop sur l'anniversaire.
Alors, nous sommes donc en direct, ça, est-ce qu'on l'a dit? On l'a dit ou
oui,
pas?
Oui, on l'a dit.
Ah ben, on a même fait la
deuxième direct.
Donc, le but de ce podcast, c'est que vous participiez à l'émission. N'hésitez pas à intervenir sur le chat. On veut vos réactions à tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va peut-être oublier de dire. Je vous rappelle le principe du podcast. Nous mettons l'épisode en lecture et on le commente scène par scène en direct. Donc, libre à vous de regarder en même temps ou pas. Nous allons vous donner des analyses, des anecdotes, des explications, des critiques, des infos sur Buffy à travers des commentaires audio pour mieux comprendre le show et l'apprécier
à sa juste valeur.
Bien
merci
justement.
De m'avoir laissé depuis le temps que j'essaie de le placer. Merci.
On était pas loin du gros blanc. le podcast existe en MP3 sur iTunes, PodCloud, Podcast Addict et plein d'autres sites incroyables et en vidéo sur YouTube. Je vous rappelle l'adresse du site où il y a tous les liens. De toute façon, pourquoi Buffy c'est génial tout attaché sans accent .wordpress.com. Et pour nous envoyer des mails, c'est pourquoi Buffy c'est génial tout attaché sans accent @gmail.com. Alors tout de suite, les gros bisous.
Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll
do what? Lick me to death?
This is a time of celebration, so sit still and be quiet.
Is everyone here very stoned?
I love you, Xander. I'll never leave you.
I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you.
Yeah.
I see her and raise you a yeah.
She bathes you?
Nothing can defeat the penis.
Ok.
Ouais,
bon jingle.
Ouais,
ça marche bien sur le téléphone.
Ça marche. Mais je m'allais pas le dire.
Non, pardon. Ouais.
C'était un secret.
On est en live.
J'attaque mes gros bisous. Alors, je voudrais commencer par faire un gros bisou à James de l'Amicale du Geek qui a soumis notre chaîne YouTube au site Tublist. Et
c'est
du coup,
bon,
ouais. Et du coup, il y a 3 semaines, on a été mis en avant dessus sur le site. Donc, c'était très
merci.
Très sympa de sa part. Également un gros bisou à tous ceux qui nous ont souhaité un bon anniversaire aujourd'hui. Hein,
ouais.
Bon anniversaire.
Merci
énormément. Et un gros bisou à Angie Sifa qui nous a fait un superbe fan art de Buffy vêtu d'un magnifique t-shirt à l'effigie du podcast.
Bon. Je l'ai pas vu.
Clément, tu n'as pas vu ça?
Même le truc de lecture YouTube.
Non, mais c'est
sur le t-shirt.
Clément, tu n'as pas vu ça, mais faut que tu ne traînes pas assez sur les Facebook, sur les internets.
C'est vrai.
C'était très très bien.
Nico Angelus dit que c'est le meilleur jingle.
Bien sûr.
Gros bisous.
Je fais très bien. Tu avais un gros bisou, Clément, je crois.
Alors, un gros bisou à Kikrine, qui c'est une nana qui fait un podcast qui s'appelle donc Une fille, un podcast.
Très bien.
Très sympa. Et qui a eu en plus la générosité d'écouter la quasi-totalité de notre podcast.
L'excellente idée, j'ai envie de dire.
Et d'en faire un
d'écouter notre podcast.
Voilà, où elle conseille aux gens d'écouter le Pourquoi Buffy c'est génial.
Oui, là, son podcast, c'est un podcast sur les podcasts en fait.
Donc ça nous fait rudement plaisir. Oui.
Oui, à présent, un podcast.
qui présente d'autres podcasts.
Qui lui plaît, quoi.
Ouais. Et elle critique, elle dit si c'est bien, si c'est pas bien, tout ça. Et donc, dans son dernier numéro, elle parlait de nous, c'est ça.
Voilà, elle a écouté, elle donne son avis, elle encourage les gens à venir découvrir le podcast, donc ça nous fait plaisir.
Donc on mettra le lien vers son podcast, donc voilà, il s'appelle comment ?
Une fille, un podcast.
On le mettra sur le site, bien évidemment. Tu avais un gros bisou, Riley ?
Oui, évidemment. Je voulais faire un gros bisou à Joss Whedon, qui ne nous écoute certainement pas, il paraît que Joss, il est en dépression.
Eh ouais.
Voilà. En plus, on a vu son film Avengers Age of Ultron, voilà, bon, bah. Effectivement, il n'a pas l'air bien. Et en plus, aujourd'hui, il a balancé une interview incroyable où il pourrit Marvel. C'est triste. Gros bisous, Joss. C'est grâce à toi qu'on est là.
Voilà. Tiens bon, Joss. On les aura.
Donc, sans plus attendre, on a fini les gros bisous ou pas ?
Oui, on a fini depuis 3 heures.
Alors, je me munis de mon appareil du futur pour lancer tout de suite le jingle des sondages.
On va passer à la rubrique sondage.
On a lancé un sondage, Riley, hein, le spécialiste du sondage.
Suite à la rubrique du sondage, on a lancé un sondage lors du dernier numéro.
Immédiatement au résultat du sondage de la dernière fois.
Oulala,
rubrique sondage.
Comment ça, il n'y avait pas de sondage ?
Pas du tout.
Rubrique sondage, donc.
Rubrique sondage,
c'était quoi le sondage ?
La dernière fois, on avait fait un sondage sur Anya, excellent personnage, superbe personnage. On a eu en plus plein de réponses sur le site, donc c'est très cool. Merci à tous les participants. Et alors, les résultats ? Roulement de tambour.
Quels sont les résultats, Riley ?
On a eu 16, il y a eu 16 voix pour Selfless, donc votre épisode préféré sur Anya. Bon, je suis assez d'accord. Hein. Qui a écrasé tous les résultats. Donc, le deuxième, c'était The Wish avec 5 voix. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit que c'était pas trop centré sur Anya, mais bon, on s'en fout. Hein.
C'est quand pas même faux.
Celle qui lance l'épisode, mais c'est vrai que c'est pas spécial Anya. Bon, bref. Elsbell, une voix et Entropy, 0 voix. Alors, Selfless, c'est vrai que c'était un peu évident.
Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion le fait que ce soit Selfless
Il faut qu'on le fasse.
Ah, d'accord.
On a parlé du passé d'Ania, mais non, mais oui.
Alors, qui a remporté ce sondage, Riley ?
C'est Selfless. Ah, mais donc, t'étais pas du tout, t'as raté une séquence.
Mais si, j'ai écouté.
C'est pas grave, ouais, c'est enregistré, tu réécouteras.
Bon, alors, taisez-vous maintenant. Le moment est important.
Ah oui, non, il a rien, c'est sérieux.
C'est l'heure de faire le point Geekopolis.
Il n'y a pas de Geekopolis.
Voilà, pas de jingle. Non, parce que alors, vous le savez peut-être déjà, si vous le savez pas, on vous le redit. Nous serons dans 3 semaines à Geekopolis. Faut qu'on monte des choses.
C'est bon ça. Ah, oui.
Parlez de Geekopolis.
Voilà. Donc Geekopolis, une manifestation qui se déroule
porte de Versailles à Paris. Et là, il nous montre le t-shirt incroyable qu'on a pour Geekopolis.
Voilà, vous pourrez nous reconnaître avec ce t-shirt.
Et on sera donc le samedi 23 et dimanche 24 mai.
Yep.
Porte de Versailles.
Voilà.
Paris, Geekopolis. On est alors c'est divisé en 5 cités, 5 quartiers, c'est ça dans les détails.
Ouais, ouais.
Nous, on est dans Métropolis. Je crois.
Voilà, donc si vous voyez
des mecs
avec un t-shirt comme ça, et ben ce sera un de nous trois. C'est des exemplaires uniques. Donc on y sera. On y sera pendant tout le week-end. On aura un stand à la gloire de Buffy sur lequel vous allez pouvoir enregistrer des mini podcasts. Pourquoi Buffy c'est génial. Et jouer. Je peux le dire.
Bah, c'est prêt là. On est bon. Faut qu'on teste bientôt, mais c'est.
Et vous pourrez jouer à un jeu exclusif concocté par Riley. Voilà. Aujourd'hui, pas plus.
Non, dis pas plus.
Donc, samedi et dimanche, on sera là. Et deux rendez-vous importants à noter. Le samedi à 13h, il y aura un podcast enregistré en public, en direct de Geekopolis. Donc, il faudra venir faire le public. Vous pourrez participer. Il y aura des micros qui vont circuler. On fera des sondages en direct. Ça va être la folie. Et le dimanche à midi, nous ferons une conférence sur les représentations du mal dans Buffy et leur signification. Ce sera très... intéressant.
C'est mystérieux.
Normalement. Normalement, ça sera intéressant.
Normalement, c'est intéressant.
Donc, c'est les 23 et 24 mai prochains, porte de Versailles à Paris.
Yep.
Est-ce que j'ai été complet sur le point Geekopolis?
Ouais, tu m'as même foutu le track, du coup là.
Oula. Il faut juste voilà, que les gens viennent avec Geekopolis.
Oula, le track. Donc, sans plus attendre, passons à l'épisode d'aujourd'hui, qui est donc l'épisode 7 de la saison 7. Nous allons parler de Conversation with Dead People. En français, Clément, qui s'appelle
Connivence, bien évidemment.
C'est en titre VF.
Ouais. Vous voulez en dire deux mots, peut-être ?
Comme d'hab, on n'est pas tellement surpris, ça n'a pas vraiment de sens direct, en tout cas.
Bah, ça n'a rien à voir, Connivence, ça ne veut pas dire...
Oui, voilà, c'est très...
Donc vous n'êtes pas content, vous êtes un peu colère.
Ah, non, on est un peu colère, là.
À ce point que je suis allé chercher la définition de Connivence. Non, mais en vrai.
Parce que tu ne sais pas ce que ça veut dire, Connivence.
Non, mais on sait ce que veut dire Connivence, mais sans savoir... Ah.
Finalement,
et la définition, je vous la lis parce que c'est quand même scandaleux cette traduction, c'est connivence, participation, entente secrète, intelligence non avouée en vue d'une action, complicité, agir de connivence avec quelqu'un, c'est donc n'importe quoi.
Enfin voilà, du coup, c'est pas la définition qui est scandaleuse, c'est le fait qu'il ait choisi comme.
Bah pourquoi ils ont pris ce titre, je comprends pas.
Parce qu'ils sont en connivence.
Est-ce que vous allez quitter Twitter vu que vous êtes pas content?
Ouais, bah je suis à deux autres de quitter Twitter. Hein,
je comprends. Donc c'est un épisode qui, de par sa structure, se démarque du reste de la série. Vous allez voir, c'est quatre histoires totalement indépendantes, mais qui se déroulent en même temps et sont racontées de manière alternée. Et pour certaines personnes, le titre est une référence au film Sixième Sens. Quand le petit fait.
Vu de moi. Enfin, pour moi, c'était évident, quoi.
Et surtout, la référence peut être renforcée par le fait que Buffy, dans cet épisode, est psychanalysée par un personnage qui est mort.
Un revenant. On va dire une sorte d'un revenant.
Oui, en fait, il peut faire le lien avec. Mais il est mort. Il est surtout mort, et donc ça.
Oui.
Voilà, c'est voilà. Une petite référence au film. C'est un épisode réalisé par Nick Mark, dont on a déjà parlé dans ce podcast, dans le numéro Double Mythe Palace, sur Double Mythe Palace, saison 6. Et c'est un épisode écrit à plusieurs. Alors, petite explication, c'est Drew Goddard et Jen Espenson qui sont crédités comme scénaristes de cet épisode.
Mais c'est faux.
Mais non, c'est pas totalement faux. Mais il a été écrit à quatre, en fait. Parce que pour des problèmes de délai, ils étaient apparemment très charrettes sur la préparation de cet épisode. Donc, ils ont chacun écrit une histoire sur les quatre histoires. Jen Espenson a écrit les scènes Dawn Joyce. Drew a fait les séquences des nerds, donc Jonathan et Andrew. Et Martin Oxon a écrit les scènes de Willow. Avec Cassie et Joss, celle de Buffy et Holden, évidemment.
La meilleure partie, en plus.
Voilà.
On ne le dit pas tout de suite, c'est spoiler, mais bon.
Mais bon, c'est quand Joss, c'est souvent bien.
Il y a sur le chat Nico qui confirme vive les titres VF.
Voilà. C'est bien évidemment.
Bien sûr.
Connivence.
Donc, c'est bon. Ça veut dire, Riley.
L'épisode a été diffusé le 12 novembre 2002. Et vous allez voir, c'est une date qui apparaît au début de l'épisode. Donc, on va vous l'expliquer. C'est pour faire comme si les événements racontés dans cet épisode se déroulaient en direct et en temps réel. C'est une impression qui va être renforcée par les séquences qui enfin, il n'y a pas d'ellipse dans les séquences. Elles ont l'air de se dérouler en temps réel. Ah. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit pitch, mon petit Riley?
Oui, je suis au taquet.
C'est l'heure du pitch.
Je suis là.
T'écoutons.
Alors, comme tu le disais, ouais, c'est un épisode quasiment en temps réel et on va suivre quatre histoires séparées, en fait. Mais vraiment séparées. D'un côté, il y aura Dawn qui fait face chez elle au fantôme de sa mère. Enfin, peut-être le fantôme de sa mère. C'est ambigu tout le long de l'histoire. Willow à la bibliothèque qui reçoit la visite de Cassie, qui est censée être morte. Hein, on le voit dans le prévu aussi, mais c'est au début de la saison. Et qui a un message, cette Cassie a un message de la part de Tara. Ensuite on aura aussi Buffy qui va faire sa psychanalyse dans un cimetière avec un étudiant psycho vampire et Andrew et Jonathan qui reviennent à Sunnydale dans un but très précis et on va découvrir petit à petit que tous ou presque sont manipulés en fait.
Et le sommaire maintenant, donc de quoi allons-nous parler dans cet épisode?
On va parler de la solitude.
Ah.
C'est hyper important et on va le voir, c'est le dernier il me semble que c'est un des derniers mots de l'épisode.
Tout à fait.
Alone. Donc, on va parler de solitude. On va parler du coup par connexion du deuil aussi, en particulier pour Willow qui vit mal le fait que Tara soit morte. On va parler aussi de la psychanalyse de notre héroïne qui là, c'est vraiment elle est sur le divan ou sur la pierre tombale.
On est au plus profond du personnage de Buffy dans cet épisode.
On va aussi parler des décors parce que chaque histoire se passe dans un décor précis en fait. Et ça bouge pas de. Enfin, chacun a son décor et aucun va changer ni se croiser.
Et aussi, on parlera un petit peu de mise en scène, voilà, comme d'habitude, et de production. Quelquefois, il y a des petits détails de production qui ont leur
qui changent un peu le truc, notamment sur Cassie,
par exemple.
Ça tease un peu
les aléas des tournages et des productions. Est-ce qu'on a des trucs à ajouter avant de commencer?
Sur le chat, on me dit que les gens veulent voir Clément nu devant la caméra. C'est possible, quoi?
Alors, veto, je veux pas. Non, ça serait trop sale. Non, je veux pas.
C'est pas probable.
Alors, je me munis de ma télécommande. Je vais vous donner le top chrono pour lancer votre DVD. Attention, 3, 2, 1. Taupe, c'est parti.
Taupe
chrono. Donc là, petite animation incroyable.
Le menu, l'ami Cal du Geek disait que tout à l'heure, les menus étaient un peu.
Hop là, c'est parti. Ah, moi, j'aime bien la saison 7.
Le menu du DVD, donc.
Previously, Riley, des trucs à dire sur
Oui, bah là, on nous remonte tous les personnages décédés, en fait, qui vont intervenir dans cet épisode.
C'est très gay, alors.
Bah, c'est pas... Non, c'est triste, mais... On nous montre voilà donc Warren, Cassie là qui meurt, Tara au début qui s'est fait tirer dessus par Warren, et on voit aussi que Spike a retrouvé son âme et bah du coup n'est plus méchant en théorie.
En théorie.
Ah, premier plan retour le futur direct. Bah si, il allume les enceintes, si, il prend la guitare, c'est carrément
pensé, on y a pensé direct.
Donc le titre est écrit, ça arrive jamais ça.
Ça arrive jamais. C'est en fait, c'est juste la deuxième fois que ça arrive dans l'histoire de la série qu'un titre d'épisode apparaît à l'image. Parce que si vous regardez en VF, vous voyez que au tout début des crédits, on voit le titre qui apparaît en bas de l'image. Mais ça, c'est que en VF. En VO, les titres n'apparaissent jamais. On connaît les titres, on le sait, mais ils sont jamais inscrits à l'écran. Donc, sauf pour là, donc ça marque. Tout de suite, ça donne un indice au spectateur qu'on va voir un épisode pas ordinaire. Donc, on nous donne, comme je vous ai dit, la date et aussi l'heure, hein, 8h, ouais, 8h du soir.
Comme si l'épisode était en temps réel, en fait.
Voilà, c'était l'heure à laquelle était diffusé l'épisode à l'époque. Donc voilà, on est en temps direct. Alors, comme si on s'asseyait, comme si on était au théâtre, quoi, pratiquement. On va regarder un spectacle qui se déroule en direct. La chanson. Donc la jeune femme là nous chante une petite chanson qui s'appelle Blue, la chanson. Donc elle était interprétée par Angie Hart. Donc on voit ici Angie, son mari, tiens, je fais un petit point potin. Son mari c'est Jesse Tobias. Jesse c'est un ancien guitariste d'Alanis Morissette et il a travaillé avec Joss sur What's More We Feeling. Et puis c'est aussi un ami de la femme de Joss,
évidemment.
Donc c'est copinage et compagnie. Donc la chanson Blue a été écrite par la chanteuse Angie et aussi par Joss.
Bien sûr.
Et
une chanson spéciale pour la série.
Et voilà, elle a été écrite spécialement pour l'épisode. Et à l'époque, donc Angie et Jesse composaient le groupe Splendid, donc qui était déjà apparu deux fois dans la série, dans I Only Have Eyes for You, épisode 219. Vous voyez celui avec les... où il y a déjà des revenants, le lycée est hanté, et avec le morceau Charge, et dans Freshman, qui est le premier épisode de la saison 4, avec le morceau You and Me. Et à chaque fois, c'était bon, c'est là.
Alone.
Here we go.
Here we go. Bah là, Buffy confirme ton truc du théâtre, elle lance l'épisode avec son Here we go. Et en plus, toute cette introduction, on voyait bien sans parole, mais tous les personnages qui vont être dans l'épisode qu'on va voir.
Bah et puis oui, le texte de la chanson nous raconte l'histoire de quelqu'un qui alors je retrouve mes notes, qui vit un deuil et qui se demande si cette personne va pouvoir passer la nuit seule en fait. Et donc c'est tout le thème de l'épisode, la solitude, le deuil pour Buffy, Willow, Spike et
comment Andrew quand il y a le deuil de Warren aussi.
Tout à fait.
Ils sont tous
Et là donc attends petit.
Mais priorité au direct.
Qu'est-ce qui se passe?
Le plan Buffy, le dernier où elle a les bras croisés habillée en noir, hyper là elle passe pour une adulte qui n'a rien à voir ce plan avec tous les autres plans Buffy de générique de
Zed qui était un peu plus badass.
Ouais, là elle a l'air d'être hyper sérieuse, c'est saison 7 en même temps, c'est une adulte.
Oui, alors mais
habillée en noir, les bras croisés.
Et surtout ce plan c'est pas Buffy les gars. C'est The First qui a pris l'apparence de Buffy.
Oui, d'accord.
Okay. Ça a beaucoup de signification. C'est parce que cette saison 7, c'est aussi la saison. Donc, en toute la saison, ce dernier plan, c'est The First donc, qui apparaît à la fin. Et la saison 7, c'est la saison où Buffy va apprendre à s'effacer, justement, et à transmettre son savoir aux autres. Donc, c'est pour ça que.
Monsieur Pitou sur le chat, Evil H.
Grosse dédicace à Evil H 113.
Oui, alors ne nous laissons pas distraire par ces gens.
on est dans la voiture, dépêche-toi, tu rates du Star Trek.
On est donc là, voilà. Donc on a nos deux geeks dans la voiture, donc c'est bourré de références geeks. Ça parle de Star Trek. Il y a des vannes de Andrew qui dit it's you starting with your bottom. Ça c'est très drôle. Donc ça parle de références aux Klingons, tout ça.
Hop, le plan panneau Sunnydale.
Et il y avait aussi une petite référence, un petit retour sur la chanson. Dans les textes de la chanson qu'on vient d'entendre, à un moment, la chanteuse disait We've gotta make it right. On va falloir qu'on fasse ça bien. Et justement, Jonathan dit la même chose. Il dit Can I make it right? Est-ce que je vais pouvoir. Ah non, c'est l'inverse, pardon. La chanson dit Can I make it right? Et Jonathan dit We've gonna make it right. Voilà. Enfin bon, ça, les deux, la chanson et la réplique de Jonathan se répondent. Voilà, va falloir faire bien les choses. Et donc, on aura la réponse à la fin de l'épisode. Est-ce que les choses vont bien se faire ou pas? Donc, on a loupé une séquence classique de baston dans le cimetière. Et là, on est avec
Dawn qui imite Buffy, en fait. Qui, maintenant, elle, au lieu de détester sa sœur, elle l'admire et elle fait pareil. Quoi. Elle joue à Buffy dans la maison avec les vraies armes de Buffy.
Ce qui pourrait peut-être sous-entendre que c'est elle la prochaine tueuse.
Enfin, moi, je bah ouais, ça un moment, surtout.
Tu
ouais.
vois, peut-être que
après, il y a toute l'intrigue avec le potentiel et tout. Ouais, c'est vrai. Hein. Et bah, ça, c'est marrant qu'elle est complètement... Hop, un plan. Donc,
il y a beaucoup ce plan, Riley.
Ouais, subjectif de l'extérieur de la maison, comme si elle était observée par quelque chose ou
quelqu'un ou quelque chose.
On a peur.
Elle danse avec dans Scream.
Ouais, on dirait du Scream un peu.
Ça. Voilà, la jeune fille qui est toute seule dans la maison, évidemment, elle est en danger.
Et voilà, et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'épisode d'il y a 3 semaines, où Dawn ne voulait pas justement être seule dans la maison, faisait tout pour retenir les gens, là elle est contente d'être toute seule. On voit que Dawn a grandi, a évolué, le personnage
a passé ce cap.
Et tout à fait, tout à fait. Donc là, Willow, on est avec Willow à la bibliothèque universitaire.
Hop, et là, on voit Cassie directement.
Alors voilà. Là,
ce qui est cool, c'est que Willow sait tout de suite qu'il y a un problème, puisqu'elle reconnaît Cassie tout de suite.
Quoi. Bah oui, enfin, c'était il y a pas longtemps en même temps, heureusement.
Non, mais c'est bien. Ils auraient pu jouer le fait qu'elle a vu que c'est un personnage qu'ils sont pas censés le croiser. Bah, ils le disent en plus, on s'est jamais rencontrés.
Mais bon,
elle sait tout de suite.
Non, mais ça aurait pu être encore mieux quand même.
Bah oui, voilà. Ouais.
Parce que figurez-vous que normalement, ça aurait dû être Tara. Donc là, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, c'est The First qui prend l'apparence de Cassie pour essayer de pourrir la tête de Willow. Et ça aurait dû être Tara qui apparaît à Willow pour essayer de lui retourner le cerveau. Sauf que... donc alors, il y a deux versions qui circulent. Il y a une version qui dit que l'actrice Amber Benson n'a pas voulu revenir dans la série pour jouer un personnage méchant, pour pas salir entre guillemets le personnage de Tara.
C'est pas ça dire, c'est même pas elle, c'est The First.
Et la version officielle, c'est que elle était pas disponible. Donc en gros, on pense.
C'est vrai qu'elle a fait plein de trucs après, quoi, du coup. Il me semble. Hein,
non mais. C'est quoi?
Elle était dans un grand film, une semaine peut-être.
Non mais donc on peut imaginer qu'effectivement, elle avait pas trop envie de salir le personnage de Tara, mais que par courtoisie, ils ont dit qu'elle n'était pas dispo.
Oui, voilà, Michael bon, Dudik, tu as ta réponse. Parce qu'il lui demandait justement...
Résultat, elle n'est pas là et ça fait chier parce que ça aurait été quand même beaucoup mieux avec Tara. Mais bon, passons. Qu'est-ce qu'on est où
Dawn,
là
le mec Dawn. Qui regarde un film d'horreur et elle va se retrouver dans un film d'horreur.
Évidemment, c'est un film d'horreur qu'elle regarde.
Mais oui.
Alors, et moi, je voulais juste faire... On revient juste un petit peu en arrière. La séquence de Willow s'est terminée par... Une réplique, Tara, point d'interrogation. Vous allez voir que beaucoup, beaucoup de séquences de cet
épisode toutes,
vont se terminer par une interrogation. Et bon, c'est une ficelle classique pour encourager le spectateur à rester pour la suite de l'histoire. D'autant plus, c'est d'autant plus important vu que là, on a 4 histoires qui sont différentes mais mêlées. Et le spectateur doit regarder 3 autres histoires pour finalement revenir à la 4e.
C'est du classique, donc, elle peut pas éteindre la télé.
Donc il faut l'encourager à rester. Donc on lui balance des questions comme ça pour créer du suspense. Et en plus, c'est un épisode où les gens ne vont faire que beaucoup que parler, enfin sauf Buffy là qu'on voit qui bastonne. Mais voilà, c'est très important de poser des questions au spectateur.
Ah, c'est génial. Il reconnaît Buffy.
Salut.
Ah, mais putain, Buffy.
Mais ça fait longtemps.
C'est très drôle.
Qu'est-ce que tu deviens?
Holden Webster, mais bien sûr.
Et d'ailleurs, je reviens encore en arrière. La fin de la séquence de Dawn juste avant se termine par Is there a storm? Point d'interrogation.
Et point d'interrogation.
Oui. Une interrogation, tout pareil. Fin de la parenthèse.
Donc là, toutes les histoires sont lancées. On a un peu oublié Andrew. Mais...
Alors, Nico Angelus nous confirme que Amber Benson en a reparlé.
Oui, donc pour dire qu'elle n'était pas. Oui, elle voulait pas.
Dispo,
elle...
Ou
non, elle voulait pas. Elle voulait pas. C'est ça?
Ah, je sais pas, donc Nico, confirme lui... que... ah, oui, donc qu'elle en a reparlé, mais après, non.
Non, moi je pense qu'elle voulait.
Là, si tu veux donner un peu plus de détails, Nico.
Michael Dugin dit que Tara écrit maintenant. Elle écrit des romans. Qu'est-ce qu'elle écrit?
Est-ce qu'on peut avancer sur les fils?
Parce qu'on est déjà en retard. Il y a plein de trucs que je voulais dire.
Elle va attaquer son micro-ondes avec une hache. Tout est logique.
Bah là, c'est une référence à Evil Dead dans le.
Non,
là,
c'est d'ailleurs maintenant.
Ah, ça, j'aime bien, c'est un détail, mais le poste qui fait quand même de la musique.
Ça, c'est génial. Moi, j'ai adoré cette idée.
Mais toute cette séquence avec maman. Encore une question, fin de premier acte.
Fin de premier acte, on finit sur une question.
Et c'est efficace.
Et donc là, Buffy qui est face à son vampire qui va le psychanalyser. C'est un ancien ami du lycée qui est maintenant étudiant en psy et qui est surtout vampire, surtout, qui vient de se faire transformer en vampire.
C'est marrant, c'est comme quand on croise quelqu'un vraiment et qu'on connaît, mais qu'on n'a pas vu plus longtemps, il pose les mêmes questions, sauf que là, c'est dans un cimetière en pleine nuit, il y en a un qui est vampire. Et...
Bah ouais, donc, le dialogue est vachement réaliste. Ouais,
exactement, c'est exactement ça, ils ont des souvenirs, ça pourrait être des vraies personnes.
Voilà, un dialogue naturel.
C'est très drôle, là c'est très justement Joss Whedon, il fait que ça quoi.
L'acteur est très cool, Jonathan Woodward. Il est tellement cool que d'ailleurs il va revenir plusieurs fois dans d'autres projets de Joss Whedon. Il va jouer dans Firefly et il va jouer aussi dans Angel. À plusieurs reprises, il va incarner Nox. Donc ouais, très bon acteur.
Oui,
il a pas fait grand chose.
Il discute avec les vampires.
Et oui, et puis
il parle des gens qui ont en commun des connaissances communes.
Et là, Buffy, dans cette scène, elle est totalement redevenue la Buffy ado, enfin ado devenue femme maintenant, mais la Buffy non tueuse, vous voyez. On le voit, c'est très clair dans son jeu, elle joue très bien aussi, Sarah. Et elle joue pas du tout de la même manière, elle est un peu parfois, je sais pas, hésitante ou pas sûre d'elle, ou voilà. Et pas du tout tueuse et tout, et elle parle. Elle parle juste avec un ancien mec de
ça, lycée, quoi. Tu rencontres quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, tu n'es pas forcément à l'aise.
Donc, on commence avec les banalités et va bientôt arriver le moment de la psychanalyse.
Ouais, mais il y a des répliques marrantes, comme par exemple, elle dit ah ouais, je ne t'avais pas reconnu avec ta nouvelle tête de démon. Et en plus, tu es beaucoup plus baraqué qu'avant. Il dit, je viens de se battre. Et puis après, quand il dit quoi,
on dit ça tout le temps. Hein,
Holden, Conneuf Holden, bah, je suis mort. Il fait une vanne là-dessus.
C'est... Ah bah apparemment je suis mort. Un truc comme ça, je crois.
Ouais, je crois qu'on a loupé le moment où il parle de Scott, je crois. Scott, donc il parle de Scott, l'ancienne petite amie de Buffy en début de saison 3. Et donc là, c'est drôle parce qu'ils font dire à Holden que Scott est devenu gay. Et c'est une référence à l'époque. Ah oui, voilà, c'est là, c'est juste là. En fait, à l'époque, l'acteur, donc Fab Filippo, qui incarnait Scott, jouait dans Queer as Folk. Il jouait donc un violoniste gay. Et voilà, c'est un petit clin d'œil à Fab Filippo.
C'est bon.
Pour dire qu'il est devenu gay après être sorti.
Ouais, c'est quand elle dit c'est drôle. Slayer que la psychanalyse commence.
Mais ouais,
elle lui demande, ah oui, donc t'es unique. Et après, Holden enchaîne. Ah non, c'est Buffy qui dit alerte psy 101.
Ouais. D'ailleurs, c'est parti.
Bah ouais, voilà,
c'est la psychanalyse commence. Hop, c'est le plan raccord sur le téléphone pour montrer que ça se passe en même temps avec Dawn en train d'essayer d'appeler Buffy.
Voilà, on en rajoute sur le côté en temps réel. Tout se passe en temps réel.
Joyce
ça fait froid dans le dos.
Ah oui, alors donc ce plan
c'est bien fait.
Il a été fait avec une caméra robotisée, vous savez, les caméras qui sont sur qui permettent de faire la caméra exactement les mêmes plans au millimètre près, et comme ça après donc on filme une fois avec le corps, une fois sans le corps, et après on mixe les deux images et on obtient ce plan très cool.
J'ai vu les chaises dont tu parlais.
Les chaises,
ouais. Ouais, dont on parlait hors antenne.
Pardon.
Donc il y a un plan avec des chaises mises sur la table de manière instantanée. Donc c'est une référence au film Poltergeist de 1982, bien évidemment.
Je crois que c'était Last Action Hero avec le chien, tu sais.
Mais justement, dans Poltergeist, ça marche beaucoup mieux parce que c'est de plein jour et ça arrive pendant un truc banal. Là, c'est juste un clin d'œil, quoi. Ça fait pas peur du tout, quoi.
Le plan
non, c'est pas
rapide.
Le plan qui fait le plus peur, parce que c'est ça. Cette scène, pour le coup. Alors, elle est pas, mais elle fait quand même, elle est un petit peu angoissante, très angoissante même, je trouve. Moi j'aime bien les côtés, les films de fantômes, d'esprits.
T'aimes bien quand ça fait peur.
Ouais. Parce que le tueur, ouais. Tu peux le slasher, toi tu peux lui casser la gueule. Un esprit, tu peux pas.
Ben moi c'est ce que j'aime moins justement, c'est parce que en gros il peut faire ce qu'il veut quoi, donc il y a pas trop d'enjeux quoi.
Ah mais il est insaisissable, c'est flippant.
Bah oui, justement, donc tu peux rien faire, donc le personnage il...
Bah justement, c'est parce qu'il peut rien faire que c'est flippant, je trouve.
Ah oui, bon, oui, dans ce sens-là, oui. Il y a des débats. Donc la Dawn, qu'est-ce qu'elle fait, Dawn ?
Bah, elle pense que c'est sa mère, l'esprit qui est là, du coup elle essaie de lui poser des questions. Et moi j'aime beaucoup cette scène, parce que le fantôme répond en tapant au mur, avec un coup ou deux coups.
Ben, c'est toi.
Non mais juste cette ambiance, ça marche super bien par rapport aux questions.
Hop, caméra, fait tout trembler.
Cheeky cam, hop, et là c'est cool.
Il y aura plusieurs références comme ça au spiritisme dans l'épisode. Bah forcément, on est dans l'épisode où les gens vont avoir des conversations avec les morts, donc il faut qu'on retrouve les codes du spiritisme. Donc comme taper une fois pour oui, deux fois pour non, des choses comme ça.
Enfin, celui-là, ça marche pas. Voilà, on est dans la partie comique de l'épisode.
Voilà, donc on parlait des genres justement, et vous allez voir que donc chaque histoire a ses codes. Et donc dans l'histoire Jonathan Andrew, c'est essentiellement les codes de l'humour et de la comédie. Enfin, jusqu'à la toute fin, en tout cas, parce que ça sera beaucoup moins drôle à la fin. Donc, de la chute, des gags, des références geeks, du comique de répétition, check, des choses comme ça. Et donc, ça permet de faire redescendre la tension entre deux séquences chargées en émotions, comme par exemple les séquences de Dawn ou Willow. Et pareil, c'est du classique, quoi. Quand, dans une œuvre, il faut toujours qu'il y ait un certain équilibre entre les différentes émotions, entre le grave et le moins grave.
J'ai un poster du surfeur d'argent derrière.
Pardon. Oui. Il fallait le noter. On va parler comics tout à l'heure, je crois.
Monsieur Orange, il raconte son histoire.
Est-ce qu'on a précisé qu'on allait parler d'Avenger 2 tout à l'heure?
Ah, on n'a pas dit.
Je ne sais pas si on l'a dit.
On va en parler. Mais...
En tout cas, oui.
On parlera d'Avenger 2.
C'est là le gag de check.
Ils sont habillés comme dans Ghostbusters.
Tu parlais de référence geek, voilà, justement, j'allais en parler.
Ouais, ils ont les gros sacs, là.
C'est la référence à Ghostbusters aussi, elle est visible. Surtout que là, ils vont se séparer comme les Ghostbusters dans l'hôtel.
Check. Il y a aussi, on a loupé, il y a une référence à Retour à le futur. Quand
Think McFly. Il va y avoir Ghostbusters 3, les gars.
Ça va être nul. Ça va être nul. Je suis désolé, mais ça va être nul. Dans les commentaires audio, écoutez les commentaires audio juste à ce moment-là. C'est un peu plus loin. Il y a Danny Strong et Tom Link qui font donc les comédiens.
Hop, Warren.
Qui refont le gag check. Donc c'est très drôle.
Dans les commentaires audio.
Dans les commentaires audio, ils sont géniaux. Warren arrive.
Donc Andrew lui aussi va parler à quelqu'un de mort.
De mort, oui. Donc enfin de First qui
on ne sait pas encore que c'est de First.
Ouais, mais bon, nous on le sait. Nous on l'a déjà vu l'épisode.
Oui, je suis d'accord. C'est un peu évident quand même. On s'y attend.
Et justement, ça permet de dire quelque chose, c'est que.
Je suis devenu mexicain.
Juste un petit détail drôle, une petite anecdote drôle. Donc oui, la Warren est mort et donc apparaît sous les traits de First. The First ne peut prendre les traits que de quelqu'un qui est mort, on est d'accord?
On est d'accord.
Sauf que dans les BD, alors attention, je vais spoiler les BD, si vous n'avez pas lu les comics Buffy saison 8 et 9 et 10.
Bouchez-vous les oreilles.
Dans les BD, Warren revient.
Ah oui.
Et il est censé avoir été sauvé de la mort par Amy, la sorcière. Et donc la réponse de Joss à cette incohérence, elle est marrante, je vous la lis. He was legally dead for like a second. Amy didn't tell him because she didn't want to upset him. Okay, I forgot. Okay. Voilà, mon anglais était magnifique, hein, vous avez noté.
On est habitué, non, hein.
Non, en gros, ouais. En gros, elle était marrante sa réponse parce qu'en gros, il avait oublié, quoi. Donc il essaye de se défendre, mais bon. Il avait oublié.
Au moins, il l'assume.
C'est pour ça qu'il y a cette petite incohérence dans les
priorités de saison 8. Cette scène-là, quand même. Tara parle à travers Cassie de. Ah, Willow, c'est quand même génial.
On a loupé les références à Star Wars pendant que je faisais mon avis. Je suis désolé, Clément. Clément.
Là, on a pris un peu de retard.
Ils font des citations Star Wars et en plus, ils le disent. Quoi. Warren dit qu'il reprend la réplique et tout.
Ah, si, alors une chose que je veux dire, c'est que justement, il utilise une référence à Star Wars pour convaincre Andrew de la véracité de son plan.
Star Wars.
Donc voilà.
Pourquoi il le connaît bien?
Pour les geeks, Star Wars, c'est une religion. Donc
ils disent la vérité. Quoi.
Star Wars a toujours raison. Bon, bref, Willow et Cassie.
Willow, là, c'est super triste.
Donc là, on chiale, hein, on est d'accord.
Mais moi, j'ai chialé.
Willow aussi, chiale.
Tout à l'heure.
Mais alors, moi, j'ai chialé pas pour la même raison. Dans cette scène, parce que figurez-vous qu'il n'y a rien qui vous choque là depuis le début de l'épisode. Moi, ça me fait pleurer. Il manque un personnage quand même.
Ou
Xander.
Il est en vacances, c'est cool.
Moi, il n'y avait pas Xander dans cet épisode, donc j'ai beaucoup pleuré.
Alors, c'est vraiment le seul épisode de Buffy où il n'y a pas Xander.
C'est le seul épisode sans Xander. Au départ, il était prévu qu'il parle lui aussi à la Force, mais qui aurait pris les traits de Jesse. Vous vous rappelez de Jesse dans le premier épisode de Buffy?
Eric Balfour.
Donc, il est mort lui aussi. Jesse. mais du coup, ça aurait été Willow qui n'aurait pas eu de. Qui serait pas apparu dans cet épisode. Mais alors là aussi, bon, l'acteur était pas dispo. C'est pratique de dire l'acteur.
Balfour, il a fait quelques trucs là.
Et c'est aussi le cas pour Anya qui était censée pendant un moment parler avec Alfrek. Mais là aussi, l'actrice pas dispo. Donc voilà. Ça, c'est pas
trois plans de coupe sur Spike hein, qui lui aussi a un rôle à jouer dans l'histoire.
Donc il est là, mais il parle pas lui, Spike.
Ouais, toutes les scènes où il y a Spike, il y aura pas de dialogue.
Faut que ça soit rapide. Donc Spike Bar, bah, on a fini la cimetière, on retourne au cimetière, donc on va très là, très longue séquence.
Là on est la psychanalyse pure et dure. Buffy une séquence... est allongé sur un, ouais. un divan.
C'est une séquence magnifique qui est très très longue et qui va marquer la fin du deuxième acte. Et vous allez voir que dans cette séquence, ce qui est intéressant, c'est que il va se passer plein de choses et c'est juste par le texte et la mise en scène qu'on va passer de l'humour à l'action, au drama et après de l'analyse intellectuelle du personnage. Enfin, c'est une scène qui est assez dingue et très très longue. Et donc bah là, on voit que, comme tu l'as dit, Riley, on reprend les codes classiques de la psychanalyse avec Buffy allongée. Cette tombe d'ailleurs a été construite exprès pour exprès, non ça se dit pas exprès. A été construite
pour cette scène.
Pour cette
ça
scène.
Ça ressemble à un divan avec le bouquin.
Exactement.
Oreille,
alors que toutes les autres tombes viennent du vrai
cimetière. C'est un vrai cimetière quoi. Hein
qu'est-ce qui se passe? Oui, non. Parlez.
Il y a un quand même décalage avec le chat. Alors du coup, parce que ça réagit, mais on voit nous après coup forcément vu qu'il y a un petit décalage. Donc là, les mécaniques du geek. Du geek nous précise que ça aurait pas apporté grand chose de revoir Jesse.
Ah ouais, bah c'est vrai qu'on l'a un peu oublié peut-être. Ça fait comme 7 saisons qu'on l'a pas vu. C'est vrai.
Ça n'aurait pas été fort utile. Donc voilà, donc pardonnez-nous pour ce petit décalage avec.
Là c'est marrant, il y a Holden. Ah oui, il cite un moment, c'était au début de la scène, il dit ça fait presque 30 minutes qu'on parle et.
Et faut qu'on se casse la gueule, dis donc.
Non mais voilà, c'est comme si vraiment l'épisode était en temps réel, que ça fait déjà 30 minutes avec les pubs quoi, qui parlent vraiment et encore un indice que tout se passe en direct quoi.
Que c'est en live. Eux aussi sont en live.
Peut-être que eux aussi sont en live. Et c'est aussi dans cette scène, il y a une de mes répliques préférées quand Holden, il va s'asseoir et il dit Buffy.
C'est pas drôle. C'est même absolument pas drôle.
Putain, vous l'avez fait tout à l'heure. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris.
La réplique préférée.
On l'a fait hors antenne.
Ah la vache.
Ouais, Holden, Passo dit Buffy, I'm here to kill you, not to judge you. C'est quand même, ça résume bien le rôle du personnage.
Ouais, et aussi
le décalage de toute la situation.
Aussi, ce qui est drôle, c'est que quand Buffy est déstabilisée par ce que dit Holden, elle a l'impression que c'est parce qu'il est evil. Elle dit c'est son côté démoniaque qui la déstabilise. Alors que pas du tout. Alors que c'est comme souvent dans Buffy, ce sont ses problèmes humains qui la déstabilisent et c'est le côté psy et non pas vampire d'Holden qui la déstabilise parce que ses vrais problèmes à Buffy sont souvent humains. Donc là, avant de parler, comment ça s'appelle ?
Il s'assoit, ça y est, il rediscute. Ouais, il avait une bonne.
Son complexe de supériorité,
Buffy,
etc.
Lui dit au moment Because I'm gonna win, ça c'est cool aussi. Elle sait déjà d'avance que bah, elle va gagner, qu'elle va devoir tuer le vampire à la fin, et on connaît déjà l'issue.
Eh, c'est bien écrit, hein.
Bah, c'est Joss cette partie.
Bah, carrément. On l'a pas dit ? On va leur dire.
Là, il est à fond. Hein. Je pense qu'il aimait bien ses personnages. Quoi. Vraiment,
mais on est complètement au cœur de l'analyse du personnage de Buffy. On est voilà, est-ce qu'elle est un super-héros, donc par définition elle est plus forte et meilleure que tout le monde, mais en même temps elle a fini par en prendre conscience, donc elle doit surtout faire en fonction de ça et sinon c'est pas bien et, bah, parce que si comment dire, elle fait comme si elle était supérieure aux autres, elle agirait pas bien comme dans When She Was Bad par exemple, le premier épisode de la saison 2. Ou tout ce qu'elle a fait dans sa relation avec Spike. Donc, il faut qu'elle soit consciente de sa supériorité aux autres, mais sans en abuser. C'est tout son problème à ce moment-là, et c'est tout son problème tout court, tout le temps, tout court, tout à fait.
Il y a une analyse, c'est douloureux.
C'est vrai qu'elle est longue cette scène.
Mais elle est longue et ça fait que parler, mais c'est cool quand même.
Tant c'est dit dans le titre de l'épisode.
Conversation.
Connivence.
Oui. Oui.
Connivence, quoi, Clément, ça veut dire quoi, connivence déjà?
Alors, connivence, je vais regarder sur le dictionnaire parce que je sais pas ce que
c'est. Ouais, on sait pas. C'est un peu compliqué comme mot.
Non, mais pour le coup, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que cette scène c'est vachement long et tout, mais t'es dedans. C'est passionnant ce qu'il dit.
Super, ouais. Puis ça continue parce qu'après ils vont reprendre la basson.
Oui, oui, Mylène. Attends, Mylène.
Comment
c'est? Mylène 0901. Qui dit qu'il aurait pu avoir le tandem Rupert Giles Jenny Calendar.
Mais oui.
Et c'est tout à fait vrai.
Ouais, Jenny et Giles. Ouais, c'est vrai.
Là aussi, ça aurait fait chialer du coup.
Mais c'est parce que Giles n'est plus là en saison 7, c'est pour ça que.
Ça a un peu déjà été fait dans Becoming.
Ah ouais.
Quand Drusilla fait apparaître Jenny. Mais bon, ouais, oui, ça aurait été très cool.
Ça aurait pas été.
Giles, d'ailleurs, c'est pas normal qu'il soit pas en saison 7.
Bah ouais.
Attends, mais il n'y a pas une histoire comme quoi l'actrice qui joue Jenny, elle
voulait pas.
Non, mais attends, je crois que justement.
Elle est fâchée aussi.
Et non, mais je crois qu'elle est super religieuse et.
Ah oui, tu m'as dit ça, ouais.
Il y a une histoire comme ça. Ça
l'avait un peu embêté.
Le combat reprend.
Elle n'aurait peut-être pas accepté. Voilà, et voilà, on arrive en fin d'acte 2, donc forcément, il faut qu'il y ait un petit cliff.
Voilà, Buffy va se faire mordre.
Oh non, elle se fait mordre. Putain, vite, la pub. On a trop peur, on a trop peur.
Et voilà, et en fait, non.
Moi, j'ai eu peur qu'elle se fasse manger.
Oh, on y a tous.
La pire tombale en polystyrène. Ah oui, je croyais qu'il est allé là.
Et non, parce que justement,
ils vont péter la verrière. Hein,
voilà, parce que vous allez voir qu'à la fin de la scène, ils vont finir par rentrer dans une crypte. Et ça, c'est un détail de production. C'est parce que pour pas devoir tourner trop longtemps en extérieur, parce que là, vous avez vu qu'on était dans un vrai cimetière, donc tourner en extérieur de nuit, ça coûte beaucoup d'argent de faire des scènes en extérieur la nuit. Et donc, il fallait que le reste de la conversation se passe à l'intérieur, donc en studio. Et
ils y vont.
Parce qu'ils ont eu qu'une seule nuit pour tourner ces scènes de cimetière, donc ils pouvaient pas faire toute la conversation dans le cimetière. C'est pour ça qu'ils vont dans cette crypte après. Donc là, maison de Dawn. Dawn qui est toujours en galère avec ses histoires d'apparition. Elle parle à sa mère ou à un monstre, on sait pas.
Ah, trop. Oh, là, de flash là sur Joyce en moitié cadavre. Ouais,
c'est tu as peur, Clément?
Elle est avec les yeux blancs là-bas. Oui.
Attends, normal.
Dawn, elle est forte dans toute cette histoire chaude quand même.
Un autre. Ah, regardez.
Sur elle,
un autre détail de production.
J'ai peur maintenant.
Ouais. Un autre détail de production.
Tu veux faire un câlin,
le monstre qui attaque Joyce, c'est le costume du Njarl. Vous vous rappelez du Njarl?
Non.
C'est le démon dans l'épisode 703, Same Time, Same Place. Vous savez, le démon qui embête Willow, là, qui lui mange sa peau, tout ça. Donc, le costume a été repeint en noir et c'est Jane Spencer qui l'a proposé pour pas que ça coûte trop cher et pour que son idée de monstre qu'elle avait écrit dans le scénario, donc. Reste.
It's my mother, I stay.
Elle était
bien sûr, Dawn.
Elle était très contente d'avoir eu cette idée de production parce que c'est pas souvent qu'elle a des idées de production. Elle le dit.
Du coup, ça serait une image de la force. Ce démon. Enfin, c'est une des multiples facettes parce qu'on a pas de.
C'est pas dit clairement, c'est ça qui est bien.
Oui, voilà, on sait pas concrètement à quoi ressemble, mais si ça se trouve, si c'était ça.
Ça ressemble à rien du tout.
Et oui, mais si c'était ça, à quoi elle ressemble en vrai?
Enfin, on en parle après. Parce que là, Warren, pareil, lui aussi, c'est.
Warren, il a une pose de fantôme. Regarde.
On a dans l'épisode. Le premier épisode où on voit la force. J'ai un trou, le titre m'échappe.
Saison 3,
saison 3, ouais. Putain, je sais plus. Mais on le voit, on a une apparition de Amandes. L'épisode, donc saison 3, on a une apparition de la force, une espèce de gros chauve-souris, la géante.
Non, mais elle est multi.
Voilà, elle est multi-polyforme. Donc, comment ça,
pour ça que
nous éloignons priorité au direct, j'ai envie de dire. non, surtout, non.
Holden Passo, qui ressemble à James McAvoy un peu, je trouve.
James McAvoy un petit peu, ouais. Non,
professeur Xavier.
Je veux juste dire un truc que j'ai oublié de dire dans la séquence de Dawn. À un moment donné, donc
il y a 12 séquences, quoi.
L'espèce d'apparition lui dit Get Out. Ça, c'est une référence au film Amityville. Donc une maison hantée, pareil. Sauf que dans Amityville, c'est un curé à qui on dit get out, le curé se casse. Sauf que là,
Dawn reste.
Que voilà.
Dawn n'est pas curé.
Donc c'est respect quand même. Elle a pas peur.
Elle a pas peur. Elle lui montre.
Donc là, Holden est Buffy qui parle.
On discute, c'est reparti.
C'est reparti pour un petit coup de psychanalyse. Ça fait longtemps.
Non, mais c'est bien parce que ça joue sur la durée. Et à chaque fois, Buffy se livre de plus en plus. Finalement.
Parlez-moi de votre père.
Mais à chaque fois, elle en dit un peu plus. Et jusqu'à la dernière scène de confession, qui est la meilleure en plus. Voilà, il se met à l'aise, Holden, hein, il enlève carrément sa veste. Il s'attend à un combat aussi de fou.
Je le trouve très cool, moi, cet acteur.
Ouais, il est vraiment génial.
Tout à l'heure, mais en plus, il fait du kung-fu.
Il fait du kung-fu.
Il est cool.
Aime bien. Une autre chose que j'ai pas eu le temps de dire tout à l'heure, quand il y a une apparition de Warren qui fait très très peur dans les couloirs. Du lycée, je sais pas si vous avez vu,
mais enfin il fait très peur,
mais il fait encore plus peur aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu une photo qui a traîné il y a 2-3 jours là sur les internets, sur Slayer Revival d'ailleurs, entre parenthèses, où il est tout barbu là, tout avec des grosses lunettes, il fait une tête trop bizarre.
Je l'ai pas reconnu.
Il fait très très peur.
Encore une question pour la transition, ton ex était un vampire et là on voit Spike.
Et voilà, des questions à chaque fois, suspense.
ABU, rapidement, je voulais lancer un petit sondage.
Petit sondage.
Juste nous dit que Dawn est badass dans cet épisode.
Oui,
ça fait plaisir.
On adore Dawn.
Petit sondage vite fait. Alors, cette fois, là, c'est important les décors dans cet épisode. Je sais pas si vous avez fait gaffe, quand même.
Pas du tout.
Et on se posait la question en plus, il n'y a pas si longtemps que ça, dans une soirée obscure, on était tous trois. on s'était demandé quel était le décor le plus emblématique dans Buffy. À votre avis, qu'est-ce qui représente le plus Buffy comme décor ? Est-ce que c'est la bibliothèque, le cimetière, le bronze, la maison de Buffy ou la Magic Box ? À votre avis, qu'est-ce qui est plus représentatif de la série ?
Ah bah moi je sais. Mais bon.
Donc sondage, répondez, article sur le site, tout ça, répondez sur le live immédiatement. D'ailleurs, bibliothèque, cimetière, bronze, maison de Buffy ou Magic Box.
Donc c'est quoi la question exactement ?
C'est quel est le décor qui est le plus
que ça veut dire connivence.
Quel est le décor le plus emblématique de la série à votre avis ? Pour moi, c'est quand même la bibliothèque, je pense. La première bibliothèque.
Ah oui, la bibliothèque, mais après, elle a ce problème, la bibliothèque, qu'on la voit que pendant 3 saisons. Mais...
Là, ils ont fait une sorte de remake de la bibliothèque, là, dans cette scène, justement, mais les étagères sont toutes en longueur.
Ouais, mais bon, il n'y a pas de Jice, il n'y a pas la cage.
Il n'y a pas la cage. On a raté toute la scène sur Cassie qui essaye de convaincre Willow de ne plus utiliser la magie.
Ouais, parce que la magie, c'est mal.
On dit la bibliothèque, le cimetière, bref, tout le monde n'est pas d'accord.
Donc, début de l'acte 4, donc Jonathan et Andrew. C'est marrant ce personnage de Jonathan qui explique qu'il a fait son deuil du lycée. Parce que, donc, on vous a dit que c'est un épisode sur le deuil. Et là, lui, c'est surtout, il a un problème avec son adolescence. Jonathan, on le connaît depuis la saison 2. Un personnage qui est mal dans sa peau, qui ne sait pas où aller. Il va faire des expériences. Il va flirter un peu avec la magie. Il va faire ce pacte avec les deux autres pour essayer de conquérir ce nid d'elle. Ça va mal se passer, il va fuir comme s'il faisait un espèce de voyage initiatique au Mexique dont là il en revient et on a un Jonathan assagi, mûr,
ce qui est génial, c'est que sûr de lui. Tous ses regrets du lycée,
il avait enfin...
Et justement, il parle qu'il n'a plus de regrets, voilà. Du lycée, il se souvient de ses amis, de ses ennemis, ça lui manque.
Et en face de lui, on voit Andrew qui lui n'a pas du tout fait son deuil, qui au lieu de regarder Jonathan ne voit que les apparitions de la force au travers de Warren. Andrew, lui, il est complètement dans le manque de son meilleur ami Warren, et donc il est donc manipulé par la force, et Andrew ne pourra aller de l'avant. Ouais. Et trouver sa véritable place que grâce à l'épisode dont on avait parlé la dernière fois en saison 7, Storyteller.
Mais la force attaque aux plus faibles, entre guillemets, ceux qui sont en deuil, comme Dawn, deuil de sa mère, Willow, Tara et Andrew de Warren.
Exactement.
Et Buffy, deuil en général. deuil de sa vie complètement.
Deuil de sa vie normale.
Elle est déjà morte deux fois, elle en peut plus. Faut vraiment que la série s'arrête.
Laissez-moi tranquille.
Parce que là, Dawn était direct. Dawn s'est pris une.
Dawn se lance dans une fête foraine, hein. Confetti, magie.
C'est cool les confettis, quoi.
Ouais, on les voit, hein. Des effets, c'est super cool. Ouais, ouais. Tout explose. Ouais. Les griffures se sont.
Ah, un détail. Moi, j'aime bien ces détails. Il y a Pierre Goyer qui nous dit que l'actrice qui joue la fille qui se fait mordre par Spike, elle joue dans la saison 2 de Dollhouse, la femme du sénateur.
Un rôle.
Non, mais moi, j'aime bien ces petits détails.
Ouais, mais non.
Je savais pas justement cette nana.
Dollhouse, absolument.
Cette nana, je me disais, tiens, on l'a jamais vue. Et fier, mais si. Ça donne une excuse pour revoir Dollhouse. Très bonne série Dollhouse. Donc là, on retourne au cimetière, donc dans la crypte. Donc Buffy, donc se fait continuer à se faire psychanalyser. Parce que dans cette saison, et puis depuis toujours un petit peu, elle se sent donc plus forte que tout le monde. Et à juste titre, peut-être. Et donc, du coup, elle se sent seule à pouvoir protéger le monde, à devoir se sacrifier.
C'est facile, tu sais. Hein.
Bah oui, je comprends. Tu sais, Clément.
Dis-moi, il s'installe. Il joue vraiment bien, le mec.
Et ah, donc cette
cool, hein. C'est pas tout comme ça.
Cette introspection trouvera son final, enfin sa solution dans le final de la série. Je vous rappelle qu'elle finira par partager son savoir, partager sa force, et elle ne sera plus seule. Et c'est pour ça qu'elle se sauvera en même temps qu'elle sauve Sunny.
Ce plan génial, là, quand Buffy se confie, ça avance tout doucement vers elle. Hein.
Ah, c'est ça que tu disais, le travelling.
Je sais pas si c'est un travelling ou un zoom où la caméra s'approche d'elle tout doucement pendant qu'elle se confie sur son vrai rôle.
Si c'est un travelling en fait.
Pour moi, c'est un travelling tout léger, vraiment petit à petit, quoi.
Et pour venir sur le psy, mais j'aime bien parce qu'il alterne il est bienveillant et l'agressivité quand il est en vampire. C'est sympa, ce petit cocktail.
Petit cocktail. Et là, vous allez voir que, bim, la conclusion va venir du vampire, une conclusion bien déprimante, hein, parce qu'il va finir par nous dire, qu'en gros, tout le monde se sent seul, hein.
Voilà. Que, c'est dit. Hein.
Tout le monde dans la vie se cherche une excuse pour être seul, donc que ça soit. que quelqu'un est mort ou machin ça, et qu'on finira par trouver, par ne plus être seul, seulement que quand on va mourir. Donc, youpi, on est content. Hein. C'est, on le sait déjà, mais bon, ça nous redit une nouvelle fois que Buffy n'est pas une série optimiste. Hein. C'est une série qui dit les choses. Qui, voilà, et Holden, bah Holden, il dit les choses aussi.
La saison 7, c'est quand même assez déprimant, non ?
C'est, bah c'est adulte.
Ouais, bah on a c'est pas adulte. En conclusion, mais là, c'est quand même.
Bah c'est adulte. C'est on dit dur, la vérité.
On l'est tous jusqu'à la fin.
L'amicale du geek nous dit que pour Buffy, c'est plutôt une coïncidence. C'est en fait si elle tombe sur le vampire plutôt que sur la force. Elle passe une petite psychanalyse et que les autres se font attaquer par la force.
Exactement. C'est vrai que là, pour le coup, c'est pas la force. C'est
ah,
le seul truc
sauf
c'est pas la force.
Il y a un lien quand même.
C'est ce que la force. Bah, il y a un lien par rapport à.
Il y a un lien, c'est que la force manipule Spike qui a engendré Holden.
Ouais.
Ah, ouais, un lien indirect. Un lien indirect.
Tu dis Spike, voilà, là, enfin, on comprend le rôle de Spike dans cette histoire. Alors qu'il ramène de façon extrêmement romantique demoiselle de Dollhouse chez elle.
On a fini la séquence par une question.
Il va lui faire un gros bisou.
Il va lui faire un gros
ça marche
bisou.
Bien ce rythme
et,
là,
et ce plan il est très court mais vous avez vu
dévasté,
rien que dans la mise en scène ce plan il nous montrait plein de choses, il nous montrait la nana qui propose à Spike de monter, Spike qui refuse et la nana qui redescend et tout, enfin, voilà. Là, j'ai trouvé très intéressant parce que c'était un plan de coupe mais coupe, qui ouais. Nous montrait quand même des choses
ouais, parce que là on est en plein exorcisme.
Bah ouais, ça chie
même les confettis chanson de Dawn, ouais, c'est
les confettis ça suffit plus quoi.
Elle est badass. Ouais, c'est Nico Angelus qui disait ça sur le chat tout à l'heure. Elle est vraiment badass d'autre dans cette saison.
Hein bah,
dans cet épisode encore plus.
Elle en chie.
Hop, le son disparaît.
Ça y est.
Ah, retour à la normale. Peut-être c'est bien.
Un travelling sur un slide.
Mais oui, c'était toutes ces séquences.
Merci pour cette indication.
Le dernier podcast, réalisateur nous dit que
c'est un travelling sur un slide.
Toutes ces séquences Joyce, dans la maison.
Non, Angélique.
Mais je peux en placer une ou pas?
C'est plus direct, il y a Joyce.
Toutes ces séquences dans la maison de Buffy et Dawn, c'était elles étaient bourrées de références aux grands films de maison hantée qu'on connaît tous, Amityville, Poltergeist, L'Exorciste, etc. C'est tout ce que je voulais dire.
Non, mais oui, c'est vrai.
Vous avez quelque chose à dire sur l'apparition de la
oui, moi,
de
j'ai
Joyce
à dire, j'ai
en blanc
truc, non.
Bah, bien sûr,
Gandalf peut intervenir de cette façon, mais pas plus Joyce.
Non, tu trouves que c'est trop, Clément ?
Décisif.
Non, ça te fait sortir du truc, si tu veux.
Tu trouves que c'est trop...
L'apparition immaculée, non, elle me sied guère.
D'accord.
Enfin, non, j'ai pas aimé du tout.
En même temps, c'est pour jouer que la force ouais, se fait passer pour le bien.
Voilà.
Elle exagère. Comme là, elle exagère parce qu'elle va pousser Willow en lui disant « faut que tu te suicides » et tout. Elle en fait trop. La force, c'est peut-être pas habitué à...
Même si c'est un trick.
La force ne fait pas dans la subtilité.
Je trouve que c'est trop, voilà.
Voilà, Cassie, enfin là, c'est là qu'elle se trompe clairement et qu'elle se révèle en fait. Elle va essayer de faire croire à Willow que Tara veut que Willow se suicide, ce qui n'est pas du tout probable.
Monumentale erreur.
Elle va réagir tout de suite, Willow, c'est bien, elle n'est pas dupe dans cet épisode.
Ah ben Willow, elle est forte comme une Amazon, s'il te plaît.
Arrête. Il y a encore une dernière réplique qui va être Who are you
c'est, là, voilà.
C'est tout de suite là.
Ben bah, oui. Non, mais oui, j'ai dit bien évidemment.
Willow se lève, ou Wario, ouais, il s'allance. Là, ça change tout.
Là, elle sent qu'il y a un truc qui se passe.
Et c'est à nous, spectateurs, de lier tout ça à la force. Hein, parce que c'est pas évident pour.
Ben en fait, ouais, même pas. Enfin, ça serait. Même parce que même à la fin, c'est pas très clair, en fait. On le sait au fur et à mesure des épisodes. Parce que c'est seulement la deuxième fois de la saison que la force apparaît, en fait. Elle est apparue dans le premier épisode. Et là, c'est la deuxième fois. Et donc, après, on va comprendre petit à petit qui est cette force, ce que ça veut dire, tout ça. Mais voilà, pour l'instant, on ne sait pas trop. Voilà. Donc, c'est pour ça, tout ce qu'on vous dit là, c'est vrai qu'on, quand c'est la première fois qu'on voit l'épisode, on ne peut pas forcément s'en rendre compte, je pense. Donc là, bah, l'immaculée conception apparition de Joyce parle à Dawn.
Bah ouais.
Et c'est cool, non ?
Bah, c'est cool ce qu'il dit, mais je trouve que l'effet est exagéré.
Bah alors rajoute pareil là la force en rajoute sur Buffy genre tu dois plus la voir, Buffy va te conduire à ta perte, elle se fait manipuler comme tous les persos de cet épisode se font manipuler quoi.
Par quelque part de force.
Peut-être pas Buffy mais tous les autres en tout cas.
Et alors, bah,
alors là
le
c'est le pire de tous. Censé être toute la partie comédie. Alors là,
donc Jonathan qui aura tout au long de la série hein, depuis ses premières apparitions jusqu'à sa rédemption, il aura tout au long de la série tenté simplement de se trouver des amis et d'être de se sentir moins seul hein, le thème de l'épisode, et c'est juste au moment où il pense avoir trouvé sa place, avoir trouvé un véritable ami dans Andrew et trouver le seul but de l'amitié qui est l'entraide hein, il veut faire quelque chose de bien pour devenir pote avec Buffy et aider de potentiels nouveaux amis. Et ben c'est à ce moment-là qu'il se fait tuer par cet ami, donc ce faux ami, et cet ami qui le tue pour vont justement lui obéir à son, à celui qu'il considère comme son meilleur ami, Warren.
C'est mort, ouais. Putain, c'est super.
C'est fascinant, c'est fascinant.
Là, c'est génial aussi qu'Assi dit, bah, nous, elle dit ce qu'on pense. Ah, je suis allé trop loin avec le suicide, c'est trop gros.
Un peu.
Bah ouais, non mais du coup, c'est, là, c'est, bah, c'est bien écrit.
C'est brillant, c'est brillant.
C'est cool. Alors là, fait des menaces à Willow. Et d'ailleurs, l'amicale du geek nous disait que la force s'en prenait à Willow parce que c'était peut-être la plus puissante et celle qu'il fallait gérer. Bah, la force s'en prend ouvertement à Willow.
Bah oui,
c'est
lui,
pas faux. C'est pas
elle
faux.
Lui dit clairement, elle dit, faut que t'arrêtes de faire la magie, faut que tu te suicides. Elle a peur de
la disparition de la force,
du pouvoir magique.
Elle est partie dans les couloirs du temps.
Donc, vous sous-entendez que cette disparition de la force a été copiée sur les visiteurs, c'est ça?
Ça ressemble.
Bah, ils ont vu cet effet, ils ont fait, oh là là, faut le recréer.
Bon là, c'est la fin.
Ah, et voilà.
Voilà, Jonathan a 3000 litres de sang, il se vide sur le saut.
Là, il fait flipper, c'est comme Pierre Sartman, c'est pas drôle.
Un problème de chips.
et aussi, j'aimerais bien la réflexion de Mylène.
La musique, la chanson reprend en fait.
Attends, on nous parle sur le chat de Willow, qui a les yeux qu'elle a dans I Will Meet Your Mother. You son of a bitch.
Ah, bah, c'est fini, hein, on a raté la fin.
C'est fini, bah, mais on va tout dire en conclusion, ne t'inquiète pas, Riley. Moi, j'avais des choses à dire. Donc, les personnages qui ne se croisent pas dans cet épisode, mais chacun de son côté en arrive à la même conclusion. La conclusion, c'est ça pue. On est mal.
Super. J'ai fait d'être venu. Ouais, merci.
Ils étaient seuls au début. Ensuite, ils ont rencontré quelqu'un. Ils se sentent un peu moins seuls. Ils vont converser avec des gens. Et Dawn arrive même à communiquer avec sa mère. Willow pense à parler à Tara. Jonathan pense sauver le monde et parler à son ami Andrew. Et Buffy pense trouver une oreille attentive à ses problèmes dans la personne de Holden. Mais les quatre twists finaux nous font retomber les quatre personnages encore plus bas. Vous allez voir, Willow, elle se retrouve face à une force extraordinaire qui lui annonce la fin du monde, donc elle a un peu très très peur. Dawn, elle apprend que déjà qu'elle va en chier et qu'en plus sa seule famille Buffy va la lâcher. Buffy découvre que Spike tue à nouveau, hein, donc ça c'est pas cool, et qu'elle pourra donc potentiellement plus compter sur lui. Et Jonathan, bah, lui c'est encore pire, il se fait clairement tuer. Donc le point commun entre toutes ces histoires, c'est donc The First, comme on l'a dit, qui manipule un peu tout le monde, et dont ce but est de les diviser, de les faire se sentir encore plus seuls, un peu comme avait fait comme il y avait cette tentative dans l'épisode de Yoko Factor 420. Mais là, l'exemple est beaucoup mieux réussi, selon moi.
Moi, bah, carrément, oui.
Ouais, ça marche bien.
Bah, là, ça finit vraiment mal, pour une fois. Enfin, pour une fois, cet épisode finit vraiment mal, quand même. Menace sur tous les persos. Enfin,
grosse menace, voilà, c'est l'épisode vraiment qui nous dit attention, là il y a une grosse menace. On sait pas trop ce que c'était, on avait déjà entendu
parler de la force.
From
beneath, I divorce.
Divorce from beneath, I divorce.
From beneath, I divorce.
Si, c'est Star Trek, ouais, bottom. Ouais, moi je préfère cette version, donc c'est plus drôle. Donc, ouais, non, mais en gros, ça pue quoi. Ça pue, ça pue, ça pue. D'autres choses à dire en conclusion?
Épisode sympa, mais pas plus.
Enfin, ah, t'es pas fan de celui-là ?
Si, moi je l'ai bien aimé, mais voilà, c'est pas non plus.
Mais je trouve qu'il est original.
Le truc moi, j'ai... Enfin, c'est le truc de le passage sur Dawn, donc j'ai préféré. Après, dans l'ensemble.
La partie vraiment horreur.
Après, dans l'ensemble,
ouais, fantastique. Cool. Moi j'ai bien aimé bah, donc, tout ce qui était sur la solitude, le deuil, là, ça joue vachement, là, et la force s'attaque justement à tout ce qui est psychologique. Des persos essaient de les briser psychologiquement avant de les briser physiquement, ce qui change.
Elle peut faire que ça.
Elle peut faire que ça. C'est pour ça que d'ailleurs, dans les derniers de la saison 7, ils vont créer Caleb, le bras droit de la force, qui est pour en fait faire une menace physique à Buffy.
Qui est le meilleur méchant.
Qui est un méchant.
Oh oui,
Caleb.
Et voilà, c'est parce que la force ne peut pas s'incarner, enfin, prendre l'apparence de tout le monde, mais en même temps, on n'a pas d'apparence physique.
Tout à fait.
Moi, j'ai bien aimé voilà qui s'attaque à Dawn, Willow et même Andrew, qui sont complètement aveuglés par la mort de leurs proches. Donc c'est quand même assez triste. On y arrive. Toute la manipulation, moi ça m'a fait penser direct à Lost, non pas vous? Et les personnages morts qui parlent aux gens de l'île.
C'est une référence très claire à Lost.
Et ils se font tous manipuler en fait par le Black Smoke et tout ça qui s'incarne, enfin qui prend l'apparence des gens morts pour guider les personnages.
Oui, et puis surtout t'avais pas encore placé Lost, donc il fallait que tu places Lost.
C'est ça. Complètement évident. Ouais, les gens morts, enfin bon, revoyez Lost.
Bonne série.
Je vais pas vous le redire à chaque fois. voilà, ouais, non, ouais, c'est. Et puis, alors, voilà, on peut finir juste par la meilleure partie. Quand même, la psychanalyse de Buffy pure et dure, c'est un vrai épisode de psy. On se reverrait dans la série In Treatment, là, où c'est la psy. Ils sont assis sur des. Enfin, là, c'est un cimetière, le décor est cool, mais. Et il y a des bastons pour.
Voilà, il y a des bastons.
La conversation
parce qu'on est dans Buffy.
Mais là, c'est de la vraie psychanalyse. Le gars va, pousse loin Buffy et Buffy nous dit clairement à nous, spectateurs, son état d'esprit pour la fin de la série. Quoi. C'est chaud.
Donc c'est bon chaud. Épisode, bon épisode.
Moi, mais je trouve celui-là assez génial. Quoi.
Si on passait... Oh, la rubrique, si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça.
Ah.
Ça vous dit ou pas?
Ah, vas-y.
On fait ça? Allez, c'est parti.
You're English, right?
Yeah.
I've seen every episode of Doctor Who.
For God's sakes, Andrew. You've been in here for 30 minutes. What are you doing?
Entertaining and educating.
Well, why can't you just masturbate like the rest of us?
Ok. Ouais.
Parlons de Star Wars. Ah non.
Parlons. On va parler que d'une seule chose dans le système Buffy. Tu aimais ça aujourd'hui. On va parler d'un petit film qui est sorti. Il y a quoi? Il y a deux semaines.
Ouf, je lui donne pas.
Deux trois semaines.
Pas plus. Pas plus. Une semaine et demie.
Avenger, l'âge d'Ultron. C'est comme ça. C'est ça le titre.
L'ère d'Ultron.
L'ère d'Ultron. Je sais même pas.
Réalisé par Joss quand même. C'est pas voilà. Souvent qu'il réalise un film. Faut qu'on en parle.
Donc on en parle parce que Joss, je sais pas si vous êtes au courant, c'est le créateur de Buffy. Et donc il a réalisé le premier Avenger et là il y a la suite qui vient de sortir.
Les gens sont peut-être pas au courant que c'est.
Les gens sont peut-être pas au courant. Donc on va en dire.
Il n'y a eu aucune pub sur le sujet en plus.
On va en dire deux mots. Déjà avant de commencer. Il y a une référence à Buffy dans le film. Est-ce que vous l'avez vu?
C'est vrai?
Ouais.
Ah non, mais non, pas du tout.
Pas du tout. Riley Clément?
Non.
Si, enfin, disons que
sur le chat, on demande au chat.
À peine déguisée la référence ou?
C'est alors dis-moi,
référence à Buffy.
Dis-moi la, ou laquelle?
Pour moi, c'était la sorcière à la fin quand elle se vénère. J'ai clairement pensé à Dark Willow tout de suite.
Ouais, pas mal, là, pas mal. Il y a mieux, il y a mieux, il y a mieux. Quelque chose que vous auriez entendu explicite. Peut-être. Entendu. Ultron. Quand il bouge,
il est fan de Buffy. Il me semble que Ultron est fan de Buffy.
Il fait des sons un peu étranges, non? Vous avez pas trouvé qu'il faisait des sons?
Ouais, il fait des sons, ouais.
Des trucs électroniques.
Et les sons électroniques vous ont rien rappelé?
Si tu nous sors que c'est Moloch ou je sais
pas. Ben ouais, c'était les mêmes sons que Moloch, quoi. Les gars.
Les mêmes.
Exactement les mêmes.
Une base de données de sons.
Exactement les mêmes.
Après, attends, c'est pas impossible. C'est pas impossible.
Ben, c'est pas impossible.
Quand Joss fait des robots, c'est des sons-là. Quoi. Non,
mais c'est pas que c'est impossible, c'est que c'est la vérité, les gars.
Voilà, mais que.
C'est les mêmes sons. Alors, pas voilà. Tous.
Ok.
C'était mixé, bien évidemment, avec d'autres sons, parce que Moloch et Ultron n'ont pas la même dégaine, on est d'accord?
Ah, effectivement.
Mais Ultron.
Ils ont des petites cornes.
Ultron, quand il tournait la tête et tout, il faisait parfois le même son exactement que Moloch. La vérité.
C'est pas un saut de robot lambda.
Non,
mais sachant que c'est
le son.
Mais voilà, mais ça vient de son disque dur perso.
il a amené son disque dur extra.
Voilà, et au mixage, il a dit tu mets musique, ça, c'est comme ça.
Donc, on a fait cette petite référence, cette petite parenthèse sur la référence. On a beaucoup de choses à dire sur Avenger. On va essayer de chapitrer. Déjà, je voudrais un avis général. Je vais commencer par donner le mien, parce que je suis chef. Je suis Captain America. Alors, moi, j'ai trouvé ça bien, mais pas ouf.
Bah ouais.
Mais en même temps, tu me laisses de
donner pas, les gars.
Mais en même temps, je tiens à dire que moi, je suis pas du tout fan de ce genre de film. Moi, tout ces Marvel et compagnie, les super-héros, les X-Men et toutes ces saloperies, j'aime pas du tout, en fait, je vous le dis clairement. Et rien que le fait que je m'endorme pas devant un film de super-héros, donc c'est déjà beaucoup ce qui est surtout bien, c'est que j'ai passé un très bon moment, j'ai kiffé, j'ai pas vu le temps passer, j'ai trouvé ça très cool. Donc voilà, pour moi qui ne suis pas du tout la cible de ce genre de film, je trouve que c'est déjà beaucoup, mais pas ouf parce que par rapport au premier, voilà, pour finir, je parle du premier, j'ai trouvé ça presque pareil que le premier, en fait.
Bah, c'est pareil,
et c'est peut-être ce qui m'a déçu, c'est que j'ai pas trouvé ça plus ouf que le premier.
Moi, je rebondis là-dessus, en fait, même si, contrairement à toi, moi, j'aime bien les films de super-héros. Mais là, vu que j'avais pas d'attente particulière, si tu veux, pareil, j'ai pas été forcément très déçu, vu que c'est un peu ce à quoi je m'attendais. Donc, voilà, je suis pas tombé de ma chaise en criant à la trahison, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Ça aurait dû être mieux que le premier.
Bah oui, idéalement, oui.
Voilà, bah sauf que c'est pas du tout mieux que le premier. Moi, je suis plutôt client de genre de films, des BD en plus.
Et voilà, ouais, j'ai peut-être pas... aussi ça la différence. Toi, t'es un fan de comics à la base. Mais attention.
C'est pas une question. Là, en tant que film, en soi, là, c'est justement, les critiques que j'ai, c'est pas sur les combats de la façon comics ou les trucs incroyables façon comics, épique et tout. Ça marche, mais c'est toute la... en tant que film, c'est nul, quoi. Surtout la fin, mais c'est. On a dit qu'on n'allait pas faire de spoiler. Hein,
on va, voilà, oui, on précise.
Pas précisé, mais bon, on va pas faire spoiler.
On va pas spoiler.
Dommage, parce que la fin, c'est n'importe quoi.
Mais ça suffit.
On peut parler
j'ai
de la fin.
J'ai pas fini mon avis général.
On peut parler de la fin sans spoiler.
Moi, j'ai pas fini, moi.
On va pas spoiler ce film qui vient de sortir. On va essayer de le critiquer, mais sans spoiler.
D'accord. Voilà. Bah, vas-y, finis, Rémi.
Non, bah voilà, j'ai fini. Voilà. Donc.
Les couilles.
Alors. Là, c'était du grand divertissement, c'est cool, mais.
T'es déçu, on te sent déçu.
C'est comme une tarte aux pommes, mais sans goût, quoi. du pain perdu, ouais, pas sucré, quoi.
Pas au rhum,
des crêpes pas bretonnes, mais ça a l'air bien et tout, mais
ça n'a pas de goût finalement. Des galettes sans saucisse. Est-ce qu'on peut aller un peu dans les détails, parce que là,
c'est chapitré carrément.
J'aime pas ça, on va pas aller bien loin. On a mis un chapitre, la touche Whedon. Moi j'ai trouvé que donc, dans les points positifs du film, on trouve quand même la marque de Whedon, déjà rien que par rapport aux répliques. Rappelez-vous cette réplique,
c'est du Whedon en petite forme.
Ils se reproduisent plus vite que des lapins catholiques. Catholiques, c'est pas une réplique culte, ça?
C'est absolument génial.
Et ben dans ce film, il y a des répliques comme ça, on est d'accord.
Ouais, mais il y a des répliques aussi, genre il a brûlé la pelouse, faut qu'il arrête de brûler la pelouse, des trucs comme ça.
Non, mais
c'est marrant, ça.
Mais c'est pas marrant.
Enfin, c'est marrant, ouais. C'est amusant si tu veux. Voilà.
Bon, est-ce que tu as des choses à dire sur la touche Whedon, Clément?
Oui, il y avait toujours l'humain était quand même toujours là dans les films de Whedon. Pour dire ce que c'est pas qu'un blockbuster. J'ai vraiment le sentiment de pas avoir été pris pour un con comme j'ai pu l'être en regardant. Bon, rien à voir, mais Wolverine First Class. Bon.
Wolverine First Class, mais c'était même pas.
Pardon, je comprends que oui, X-Men, ça va, il y en a tellement. Il y a X-Men First Class, pardon, et Wolverine First Story.
Même dans les autres Marvel, dans le Captain America, le 2, là, c'est bidon, voilà. Et c'est quand même mieux que ce genre de choses. Thor, le Thor 2 aussi, c'est quand même mieux que Thor 2.
Je suis d'accord. Non, mais c'est mieux que Thor 2. Mais c'est mieux que Thor en général.
Et tout est mieux que Thor 2.
Il est en roue libre complet, l'acteur. Il fait n'importe quoi. Nice. Il rigole pendant que Tony Stark lui dit des trucs. Enfin, bref, des trucs très sérieux.
Peux-tu nous parler un peu de la fin, sans spoiler, bien sûr, mais dire ce qui t'a pas plu dans la fin?
Eh ben, à la fin, il n'y a plus aucun découpage ni montage. Les personnages, ils se téléportent à droite, à gauche, dans l'église, dans les rues, dans les sous-sols. Dans la forêt enneigée, on ne sait plus pourquoi, il n'y a plus aucun plan.
Oui, il y a des gros problèmes de cohérence par rapport aux actions.
Personnages disent on s'en va, ils reviennent, on ne sait pas pourquoi. Ça n'a plus aucun sens. Alors, il paraît qu'il s'est fait charcuter au montage, le film.
Que ça sent un peu à un moment.
Bah ouais, mais il y a des trucs, c'est incroyable. Même Thor dans la caverne, on ne comprend
pas.
C'est
ça, en fait. Non, mais comment on ne comprend pas. Comme on doit pas spoiler, c'est pour ça que je dis ça sent un moment, pas. Mais je voulais pas parler d'un moment précis.
J'ai rien dit, Thor est dans une caverne, là.
Ça peut arriver à tout le monde.
Et puis, un des trucs qui m'a choqué, c'est qu'il se téléporte n'importe où, sauf qu'à la fin, un moment. Il se téléporte entre guillemets, parce que c'est même pas leur pouvoir. Et à un moment, Black Widow et Hawkeye, ils prennent une Audi décapotable avec la grosse marque. Et
mais ça, c'est rien, mais on s'en fout. Non, mais on trouve qu'on s'en fout.
C'est du placement produit, d'accord, mais c'est pas du tout subtil.
Mais c'est pas fin.
On a vu que c'est super-héros, ils peuvent voler, les gars, ils peuvent sauter. Mais alors du coup, ils prennent une Audi décapotable avec la marque. Donc, c'est du foutage de gueule.
Il y a quand même des...
Ça, ils l'ont pas coupé au montage.
Il y a quand même des plans assez fous vers la fin. Il y a des moments.
Il y a des plans fous.
Tu croirais dans Dragon Ball, on est d'accord.
Là, il y a des bastons incroyables. Le triple Kamehameha.
C'est magique. Ouais, c'est magique. Bien. Ça, c'est cool. Il y a des très bonnes choses.
Mais dans l'ensemble, c'est 200.
Il y a quand même des très bonnes choses.
Pierre Goyer nous dit que le montage faisait 3h30 au début.
Voilà, il aurait dû faire 3h30 le film, c'est clair.
Bah, ça, on sait pas. De toute façon, on serait fait chier pendant une heure.
Bah, peut-être, mais au moins on n'aurait pas eu un montage incohérent.
Parlons de la musique. Alors j'étais très ultra enthousiaste sur la musique du premier, signé Alan Silvestri, hein, qu'on vénère tous, compositeur de génie, notamment de la trilogie Retour à le futur. Et là, ils ont pris un Pékin, là, qu'ils ont, on ne sait pas d'où il sort, truc Tyler, là, je ne sais plus comment il s'appelle.
Brian Tyler. Un Pékin, il fait plein de BO.
Et
oui.
C'est dégueulasse, sa BO. J'étais scandalisé.
La musique n'est pas terrible, en plus.
La musique est pourrie. Les seuls morceaux assez passables, c'est ceux que Danny Elfman a repris d'Alan Silvestri et qu'a réorchestré.
Repris au moins bien, en plus.
Moi, je suis scandalisé de cette musique. Qu'est-ce que vous avez pensé de la musique ?
Non, pareil. J'étais très déçu de la musique. Surtout que là, la musique du 1, elle passe trop bien. J'aime bien l'écouter.
Elle envoie du gros pâté.
Elle envoie du gros pâté. Le thème est vachement classe. Et Danny Elfman, oui, les trucs qu'il a repris, même si on sent un peu du Spider-Man 2 derrière, je trouve, ça reste vachement cool. Par rapport à tout le reste qui est pas terrible. Quoi.
Non, mais la musique, c'est même pas épique du tout sur les scènes. On l'oublie quand on n'y pense même pas.
Elle est pas tellement présente. Ouais.
Ok, donc on est tous les trois d'accord, la musique a été à chier. Le jeu des comédiens, vous avez des trucs à dire sur le jeu ?
Bah, j'étais très déçu de la nonchalance. J'ai l'impression qu'ils sont enroulés, ils sont fous, les mecs. C'est bien dommage, je trouve, parce que, à la rigueur, si Scarlett Johansson à un moment nous offre une petite scène, je vais pas spoiler, t'inquiète, rassure-toi, voilà, mais tout l'ensemble, ils sont là. Bon, bah, on fait Avengers. On en a rien à
faire. Les gars jouent pas, quoi.
Même Tony Stark, que j'avais trouvé vachement impliqué. Enfin, Tony Stark, pardon, Robert Downey Jr., je l'avais vachement impliqué dans le 1. Peut-être après, il en a ras le cul de.
D'ailleurs, il est en automatique.
Là, il est en automatique. Ça
fait combien de films où il incarne Iron Man quand même. Ça fait le cinquième quand même. Hein.
Ouais, mais là, il est en automatique complet.
Surtout si on parlait de l'interview de Joss qui est sorti hier ou avant-hier, là.
Oui, parce on peut en parler exactement.
Joss nous donne des explications. Il s'est un petit peu désolidarisé de son film. Hein. On peut en parler ou pas ?
En des termes pas très.
Il y a une interview aujourd'hui incroyable de Joss. Quand même.
Alors, déjà, il se fait bâcher sur les internets et du coup, il quitte Twitter.
Il n'y a rien à foutre.
Donc, c'est que ça. Et il balance des dossiers sur le film.
Ouais.
Donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'histoire. Il dit deux, trois bricoles comme...
Magazine Empire, voilà. Hier ou aujourd'hui. Ouais.
Comme par exemple... voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, c'est bon. Il explique en gros que lui, il avait proposé que deux personnages arrivent à la fin du film qui sont Captain Marvel et Spider-Man. Spider-Man, j'ai dit quoi ?
Spider-Man.
J'ai dit Spider-Man.
Pardon,
excusez-moi, ça va. Toi, t'es balèze en anglais.
Bon, on arrête le podcast.
C'est la prononciation de Sartre. Ouais.
Donc, il avait proposé que ces deux personnages arrivent en fin de film et on lui avait dit non, on n'a pas les droits, le fais pas de ça. Et une fois que son film a été terminé, on lui a dit t'aurais pu le faire, on a les droits maintenant et tout ça. Donc, déjà, il avait les boules.
Il leur a dit fuckers.
Et il y a aussi une séquence qu'il n'aimait pas trop, il l'aurait bien giclé. Et on lui a dit tu vois tes deux séquences préférées là si tu enlèves la séquence que nous on aime nous on te fait dégager.
Il faut dire les séquences.
Ben non, on a dit qu'on spoilait pas.
C'est pas spoiler si tu dis la ferme et la grotte.
La ferme. Tu me casses les couilles. Bref, on lui a fait du chantage.
Ouais, c'est ça qui est scandaleux.
Pour garder il y a plein de choses comme ça. En gros la production s'est pas très bien passée. Il a pu faire exactement ce qu'il voulait. Et donc il nous donne des pistes de réflexion pour effectivement si on n'a pas trouvé que ce film était au niveau de ce qu'il nous a donné d'habitude, on a peut-être des réflexions ici. Bah ouais, quand tu es aux commandes d'une grosse machine comme Avengers 2, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Il s'en était très bien sorti sur le premier. Là, ça a été un peu plus compliqué. C'est peut-être une explication de...
Oui, bah que ouais, il s'est peut-être moins impliqué sur le film, il a pas fait les choix qu'il voulait, il a peut-être lâché plus prise que sur d'autres films.
Mais il manque que Joss fasse autre chose, quoi.
Mais là il se barre, c'est bon.
Moi je suis presque content, moi je suis fan de ce mec, de tout ce qu'il fait, et je suis super content qu'il se barre de Marvel, de tous ces trucs-là, de ces films totalement formatés, c'est toujours pareil sur la même chose. Là.
Non, lui il apportait un truc dans ses films formatés.
C'était quand même des films formatés. Il avait une très belle phrase pour le dire, les gens me payent pour raconter mes histoires, enfin je sais plus comment il disait ça, mais en gros c'est tout le problème d'être réalisateur de studio, quoi. T'as plein de gens autour de toi qui t'imposent des choses, mais toi au milieu de ça tu dois trouver des ficelles, des combines pour réussir à faire ton propre cinoche. Mais voilà, là il a montré qu'il savait gérer des gros budgets, qu'on pouvait lui donner un casting chaud et un budget chaud et qu'il pouvait faire des trucs cool. Donc voilà, maintenant qu'on lui donne pareil mais pour faire ses propres histoires. ça serait, moi j'attends que ça, ça sera génial et j'ai vivement qu'ils fassent ça.
Edgar Wright et Joss Whedon finissent par se barrer, c'est quand même un problème.
Eh bien justement, qu'ils fassent leur film. Edgar Wright, il a pas attendu Marvel pour faire des purs films. Hein.
Non, bien sûr, ouais. Mais
quelque part, s'il y avait un truc qu'on l'attendait, c'est dans un film de super-héros, enfin, où j'aurais vu avec plaisir. Moi,
mais oui, mais bon, c'est un projet lancé par lui au départ, Ant-Man pour Edgar Wright. En tout cas.
Mais bien sûr, mais si les studios n'ont pas compris qu'il fallait... donner carte blanche à ces mecs-là, bah tant pis pour eux.
Sinon, allez voir Shaun le Mouton, si vous n'êtes pas content.
Voilà,
c'est marrant. Si, c'est très marrant.
Bon, on a dit plein de choses sur Avengers. Je ne sais pas si on a dit plein de choses intéressantes, mais en tout cas, on a dit plein de choses. On passe tout de suite. Donc, il n'y a pas d'autre système Buffy. Tu vas aimer ça,
on exceptionnellement. On a fait un spécial Avengers.
On faisait un spécial Avengers 2.
Quand il fait un film, on fait un spécial.
Quand il fait un film, on fait un spécial. Et par contre, on a un système Buffy. C'est pas sûr que t'as aimé ça parce qu'il n'y a pas trop de rapport, mais on t'en parle quand même parce que c'est très cool.
Hey Scotty, you find anything? Scotty! Scotty! Scott! Scotty!
You bastards! Why are you torturing me like this? That is the stupidest thing I ever heard of.
Alors voilà, si t'aimes Buffy, c'est pas sûr que tu vas aimer ça parce qu'il n'y a pas trop de rapport, mais on t'en parle quand même parce que c'est très cool. Moi, je voulais vous parler d'un film qui s'appelle As Above So Below, titre VF Catacombe. Vous avez peut-être vu quand c'est sorti ces affiches où on voyait la Tour Eiffel inversée. Non, elle était inversée.
Oui, avec les crânes inversés.
De tête bêche, c'est ça que ça se dit, non ? Je sais pas.
Tête bêche, ça marche. Hein.
Avec des crânes et tout. Bon, Catacombe en VF. Donc, c'est un film de John Eric Doodle. J'ai peut-être mal écrit parce qu'il est bizarre.
Doodle.
Non, mais Doodle. Je sais pas, ça se trouve, j'ai mal écrit.
Doodle.
Un film de 2014. Donc, c'est des jeunes qui vont dans les catacombes et ça fout les chocottes, Clément. Mais par un truc de malade.
Donc là, tu es en train de me dire qu'il y a enfin un film qui te fout les boules.
Ça fait une éternité. Ça fait une éternité que j'avais pas eu peur devant ma télé.
Et moi donc.
Et c'est arrivé. J'y croyais plus. Hein, c'est arrivé. Donc alors c'est, je vous explique, c'est en mode fan footage. Donc ça saoule un peu parce que bon, il y a une mode footage et tout. Un peu, on s'en connaît. Mais bon, parfois ça marche. Il y a des trucs très très cool grâce au fan footage. Et bon, je pense que ça aide un peu à faire peur. Ça aide un peu. Et donc c'est très cool. Et moi, ce qui m'énerve. C'est mon coup de gueule. Je trouve ça malheureux qu'il faille attendre des étrangers parce que c'est, c'est un réel américain pour avoir un vrai bon film d'épouvante qui se passe à Paris.
À Paris, bordel.
Qui utilise l'ambiance gothique mystique de Paris.
Il y avait le loup-garou de Paris avec Thierry Lhermitte.
Allez, ferme ta gueule. Retour de pisser. J'espère qu'un jour, on aura des Français pour nous faire des films ou des séries qui foutent les jetons à Paris, parce que il y a un potentiel dans cette ville, pour éviter
les vampires à Paris.
Il y a un potentiel fou dans cette ville qui foutent les jetons. Et voilà. Et ce film le fait super bien. Je vous encourage donc à regarder ce film, à éteindre les lumières. Vous vous mettez, dans votre salon, là, vous éteignez toutes les lumières et vous matez ça et vous allez sursauter. C'est incroyable. Très bon film. Alors David sur le chat nous conseille d'aller au manoir de Paris pour avoir peur des sensations fortes à Paris. Effectivement, on m'en parle énormément de cet endroit et il faut qu'on y aille un de ces quatre. Mais bon, ça serait bien un film aussi quand même, hein. On est d'accord.
Bah ouais. Bah
en attendant, on va aller au manoir de Paris.
Tant pis, hein, pas chaud.
Ouais, on va le faire.
D'autres systèmes Buffy, c'est pas sûr que tu aimais ça parce que c'est par rapport avec Buffy, mais c'est très cool, donc on t'en parle quand même.
Alors, ma rubrique va parler d'un comics sur Star Wars.
Ah,
incroyable.
On parle pas assez de Star Wars.
Voilà, donc.
Il y a une actu Star Wars en ce moment, qu'est-ce qui se passe?
Il y a une actu.
Il y a un film qui a sorti ou pas, non?
Je crois, ils ont parlé éventuellement d'un projet.
Pas mal.
Comme bien souvent dans l'univers Star Wars, les BD parlent mieux que l'auteur lui-même.
C'est-à-dire
Je trouve que dans les BD Clone Wars, par exemple, t'es vachement plus, je trouve, dans l'histoire.
Ah, que le dessin animé
Que le dessin animé ou même que les films des préquels. Toutes les BD, enfin certaines BD ont un aspect l'Empire contre-attaque, à savoir un aspect vraiment ancré dans le réel, les mains dans le cambouis, tu vois, la guerre dégueulasse, quoi. Et c'est un truc qu'on trouve pas toujours dans l'univers étendu. Dans les BD, si, très souvent, et surtout dans cette collection, dont le tome 1 s'appelle Dans l'ombre de Yavin.
Alors attends, je vais montrer la couverture à la caméra peut-être.
C'est Brian Wood qui écrit.
Oui, le scénario est de Brian Wood. Et alors on peut voir. Attends, t'es pas à gauche, à gauche, à gauche. Voilà. Là c'est bon, top. Voilà. La BD se passe entre le, on va dire juste après le 4, quand Yavin est encore la base rebelle de laquelle les rebelles s'échappent suite à la bataille, cette fameuse bataille de Yavin, justement. Donc, oui, pour venir, je vous donne les références de la BD. Donc, c'est Star Wars dans l'ombre de Yavin, le scénario de Brian Wood, les dessins de Carlos Danda et Ryan Odagawa. La BD est sortie en 2013, hein, c'est tout récent. Et c'est très très bien parce que oui, donc ça raconte les encore une fois, donc juste après la bataille de Yavin, Luke est un pilote émérite, un héros de la rébellion, et en même temps il est un peu paumé, le jeune homme, qu'il se retrouve avec un héritage qu'il doit porter et il sait pas bien quoi en faire. Il y a notamment un plan très cool, je trouve, où tu as Luke qui dans sa cabine de pilote, donc c'est une petite cellule toute confinée. Sur la frégate, il est dans sa cellule, quoi. Ils ont tous une chambre, voilà, et il est là. Avec le sabre la sabre laser dans les mains, il se dit bon bah voilà. Et maintenant qu'est-ce que je fais? Je sais pas. J'ai trouvé ça très très juste, très très humain.
Mais il se passe d'autres choses dans la BD où il fait que ça?
Non. Oui, après. Attendez, je suis con parce que c'est un tout petit détail. En fait, ça parle de. En fait, c'est plutôt si une BD qui était dans la lignée de l'escadron Rogue. Toute cette série où tu suivais.
Ouais, Rogue One. Ils vont faire le film.
Ils vont faire le film. Aussi. Bon, bref, en tout cas, là, il n'est pas encore Jedi et du coup, il se fait un petit peu plaisir hein, avec une pilote, ce qui attise la jalousie de Leia. Bref, j'aime bien ce scénario assez bien écrit, tout simplement.
Mec. Tout à fait. Du coup, c'est plus que dans la continuité Star Wars.
Mais qu'est-ce que tu m'auras dit?
C'est ça. Parce que la Marvel.
Avec ça depuis tout à l'heure.
Je te fais pas chier. Mais là, justement, le Marvel.
Il y a eu gros débat en antenne.
Non, mais c'est que, du coup, tout ce que, l'ombre de Yavin, malheureusement, c'est plus canonique dans l'histoire de Star Wars.
Mais absolument pas. Mais si, parce que ça se passe entre le 4 et le 5.
Ah ben voilà, parce que justement, entre le 4 et le 5, ils ont sorti hier le comics
oui, mais ça
Marvel, parce que Marvel a récupéré les droits de Star Wars.
D'accord, mais attends, mais tu.
Et donc, mais l'ombre de Yavin n'est plus canonique comparé au magazine, non. J'ai une gravure.
Il va nous la sortir. Attends, tu la montres à la caméra.
J'ai une gravure.
Il faut certainement un petit peu montrer. Là, ils ont sorti ça qui est la nouvelle histoire canonique de Star Wars. Oui, j'ai pas lu, j'ai acheté ça tout à l'heure.
D'accord, mais on est d'accord qu'il y a des millions d'histoires qui se passent entre les épisodes 4, 5 et 6 et même entre le 3 et le 4 et qu'il n'y a pas une seule histoire. Là, ce que tu vas nous faire découvrir dans ton comics, c'est une histoire de Dark Vador, comme il en est arrivé des millions.
Ouais, non, mais
sauf
oui.
Que là, c'est Marvel qui chapeaute tout.
Ouais, non, mais
tout.
Ce qui va arriver à Luke dans cette histoire qui est dans le comics là, écrit par Jason Aaron, je crois. Je sais plus les noms des auteurs. C'est officiel ce qui va se passer dans la continuité Star Wars avec les prochains films.
Non, moi je persiste à penser que les autres comics sont aussi officiels.
L'amical du geek dit quelque chose que moi j'ai entendu. Vas-y. Aussi et que je crois être vrai. C'est simple, Disney a dit que tout ce qui était sorti avant, on peut l'oublier.
Voilà, bah, voilà.
C'est clair, hein. Mais j'ai entendu aussi ça.
Voilà, tout ce qui est sorti avant le magazine,
les gars, mais alors je suis dans le déni total.
Ah oui, non, mais je pense
qu'on balaye les romans.
Je pense que tu vas pas être le seul.
Qu'on balaye la main de Dark Vador, tout ça.
Les jeux et tout.
Que tout ça. Encore une fois, tout ce qui se passe après Trou Jedi, d'accord. Tout ce qui se passe avant, non. Là, ils font une erreur. Ils font une erreur stratégique.
C'est tout ce que tu avais à dire sur Star Wars, Clément?
Ouais. Et puis, ouais, non, c'est tout.
Que la force est avec vous.
Est-ce que tu as un autre? Si tu as Buffy, c'est pas sûr que tu aimes ça parce qu'il n'y a pas trop de rapport, mais on t'en parle quand même parce que c'est
oui,
cool.
Oui.
Ah, très bien. Oui. Vas-y. Nous t'écoutons.
Voilà. Si tu aimes Buffy, tu vas peut-être aimer un podcast qui s'appelle Split Screen.
Oui, très bon podcast.
Vous connaissez, ouais. Oui. Voilà, un podcast où des anecdotes de tournage aussi passionnantes les unes que les autres nous sont dites par trois chroniqueurs. Pardon. Vachement cool, c'est agréable de les écouter parler, ils savent de quoi ils parlent en plus. Donc
ils refont toute l'histoire du film. En fait.
Ouais, c'est pas seulement des anecdotes, c'est ils refont tout.
Oui, pardon.
De l'écriture à la prépa, au tournage, post-prod, ils passent tout en revue, c'est très fouillé, c'est assez cool. Donc c'est sur des films.
Sur des films, ouais, les grands succès qui ont bercé notre tendre enfance.
Bah des films pas dégueux quoi. Ouais.
Mais qui bossent. Ouais. Sur les Dents de la Mer, leur dernier là.
C'est le dernier Dents de la Mer. Il y a eu Indiana Jones, il y a eu Alien, La Mouche.
Star Wars, il y a eu Pixar, il y a eu.
Les films de Sam Raimi, Evil Dead.
Sam Raimi, la trilogie Evil Dead, ouais. On vous recommande ce podcast.
Ils ont promis un retour vers le futur prochainement.
Ah oui.
Ouais. Futur. Un retour vers le futur dans le futur.
La trilogie, il est tard, excusez-moi, je commence à.
Non, ça serait bien. Non, mais ouais, très bon podcast. Split Screen, donc, c'est ça?
Oui, voilà, Split Screen, comme le même nom que l'effet visuel.
On mettra le lien, bien évidemment. Est-ce qu'on n'aurait pas terminé ce podcast, nous ? Je pense qu'on a fait le tour. Que dire d'autre ? Que dire ? Bah, venez nous voir à Geekopolis.
Oui, parce qu'il n'y a plus de podcast avant Geekopolis.
Le prochain podcast se fera en public à Geekopolis. Donc, si vous voulez l'avoir en exclusivité, il faut venir y participer.
Être dans le podcast et participer.
Bah oui, participer, oui.
En tant que public, c'est génial.
Sinon, juste voir participer.
Écoutez, toi.
Je crois que le verbe qui correspond, c'est participer.
Attends, ouais. Tu veux que je regarde la définition ?
Est-ce qu'on est en connivence ?
Est-ce que c'est par rapport à connivence ?
Je crois qu'il y a une connivence du public et des.
On est en connivence avec notre public.
Les podcasteurs. On vous laisse. Il est très tard. On va vous laisser. Hein.
Merci.
Des gros merci bisous à tout le monde.
Venez à Geekopolis.
Venez à Geekopolis. On l'a dit en même temps, c'est génial.
Voilà. Et faites-vous votre avis sur Avenger 2.
Allez voir Avenger 2.
Oui, il faut quand même aller voir.
Quand même.
Et aller voir Shaun le Mouton.
Télécharger illégalement à The Bob Sobello, comme ça, si ça vous plaît pas, bah, au moins vous n'aurez pas perdu de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe ? Non, tout va bien ?
On a invité Guillaume qui nous dit au revoir à sa manière.
Et Guillaume qui dit que les invités sont chiants, c'est vrai.
le dernier était dégueulasse.
C'est très chiant, effectivement.
Bon allez, on vous laisse, ça pourrait être une éternité. allez, j'arrête.
Les gros bisous.
Le gros bisou, à plus.
Merci.
Ciao.
À bientôt.